Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Amandine Réau, Charles Magnin.
4h26, bon réveil à tous, bon courage à ceux qui nous écoutent déjà sur la route, ceux qui sont au boulot. Nous sommes en direct comme tous les matins pour vous informer, pour vous accompagner, pour vivre une journée très spéciale, évidemment tous ensemble sur RMC, parce que c'est parti, c'est ce soir, c'est jour de match, c'est à 20h, France-Australie, on a déjà hâte d'y être, on va vivre cette journée tous ensemble, évidemment sur RMC, et tous ensemble, ça veut dire avec Amandine Réau. Bonjour Amandine.
Bonjour Charles.
Amandine qui est là parce que Anaïs se repose, mais on la retrouve très vite, évidemment Anaïs. Géraldine Demory, elle, ne voulait surtout pas manquer ce coup d'envoi de la Coupe du Monde des Bleus.
Salut surtout Géraldine. Pas. Salut tout le monde.
Allez Géraldine, c'est parti, le petit pronostic pour ce soir.
C'est qui contre qui?
Allez, okay, on en est là.
Bah, on voit la fan.
C'est pour informer Géraldine. Ce bah soir, oui. C'est France-Australie à 20h, évidemment, coup d'envoi pour les Bleus. T'as regardé les trois matchs hier, Géraldine, hein, ton débrief, ce sera tout à l'heure.
Complètement.
Oui, ok, bon, c'est pas grave Géraldine, parce que je suis sûr que vous, ce matin, au 32-16 ou sur Direct Studio, vous allez nous dire bah, où vous allez regarder le match ce soir. Est-ce que c'est avec les copains, les collègues, en famille? Est-ce que vous allez le suivre peut-être sur RMC? Vous, si vous bossez, si vous êtes sur la route, vous n'hésitez pas. Racontez-nous aussi sur Direct Studio vos pronos. Est-ce que vous y croyez pour nos Bleus dans cette Coupe du Monde? Vous prenez la parole, évidemment, sur RMC. On vous attend ce matin, on va vivre cet avant-match tous ensemble. Mais il y a une autre question qui est à la une de l'actualité et sur laquelle on a besoin de voter témoignage ce matin. C'est une question bah, qu'on se pose souvent, mais qui revient à la une du débat politique. Faut-il instaurer l'uniforme à l'école?
7 députés du groupe Renaissance ont rédigé une proposition de loi en ce sens. C'est la première fois que la majorité se saisit du sujet. Côté gouvernement, le ministre Papendiaï ne s'y oppose pas. Dans ce texte, les députés expliquent que l'uniforme serait un outil qui favorise l'égalité et permettrait de lutter contre le harcèlement scolaire.
Ouais, il y a aussi la question pour certains de la laïcité qui serait plus ou moins réglée par cette histoire d'uniforme. On vous attend au 32-16 ce matin. Tiens, vous êtes prof, vous êtes parent d'élève, faut-il instaurer l'uniforme à l'école? Est-ce une mesure gadget, comme le disent les syndicats d'enseignants, ou une bonne réponse à plusieurs problèmes très concrets qui se posent aujourd'hui dans les cours d'école? Vous avez peut-être vous-même porté l'uniforme dans votre jeunesse. Venez nous raconter ce matin au 32-16. Géraldine, en tant que parent d'élève, est-ce que tu t'aimerais ce matin
bien,
que tes filles enfilent un uniforme avant d'aller à l'école?
J'aime bien ça. Okay. Pour le côté aussi appartenance, pour voilà. Ouais, non, j'aime bien.
Plutôt favorable, Géraldine. Et vous, est-ce que vous auriez aimé porter l'uniforme? Est-ce que vous l'avez porté? Est-ce que vous voulez que vos enfants, là, demain, portent un uniforme pour aller à l'école, au collège, au lycée? Est-ce que c'est une bonne réponse à certains problèmes qui se posent aujourd'hui dans les écoles? C'est vous qui allez prendre la parole ce matin, évidemment, au 32-16. Et on lit vos messages en direct sur notre appli RMC grâce à Direct Studio.
Et puis, on n'oublie pas tous nos rendez-vous. Moi, dans mon choix ce matin, à 5h10, je vais vous parler des gens qui parlent tout seuls. Eh bien, ils ne sont pas fous du tout, au contraire.
Amandine va parler toute seule. Ce matin, sur RMC.
C'est une habitude très saine, nous disent les scientifiques. Et puis on va aussi sourire grâce au meilleur de Julien Cazard et d'Arnaud Demanche, comme tous les matins.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Amandine Réau, Charles Magnin.
Il est 4h40, bon réveil à tous sur RMC. Alors, faut-il instaurer cet uniforme à l'école?
C'est la question du jour sur RMC.
Pensez-vous que votre directeur a eu raison de vous interdire les chandails à col roulé?
Non, parce que le col roulé sert à tenir chaud. Le col roulé avec le pull-over empêche de prendre le blazer ou la veste élégante qui, même à travers un tablier, se salive.
Les blue jeans?
Oui, parce que ça fait mauvais genre.
Ah, c'était en 1960 et déjà, vous l'entendez, la question de la tenue des écoliers, des collégiens, des lycéens. La question de l'uniforme à l'école faisait débat. Et une question qui revient depuis régulièrement dans le débat politique ces dernières années, souvent portée par des élus de droite ou d'extrême droite. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est que l'idée fait son chemin au sein même de la majorité. Parmi les macronistes, 7 députés du groupe Renaissance ont rédigé une proposition de loi, un texte dans lequel, alors ils ne parlent pas d'uniforme, ils préfèrent parler d'une tenue commune. Bon, ça veut dire exactement la même chose, même si ça donne un genre moins militaire.
Ils défendent un outil qui favoriserait l'égalité et permettrait de lutter contre le harcèlement scolaire. Ils évoquent aussi les économies pour les parents qui n'auraient plus à acheter des vêtements de marque à la mode. En revanche, ils ne parlent pas de laïcité, même si ces dernières semaines, beaucoup ont estimé que l'uniforme serait une réponse au phénomène des abayas, ces tenues religieuses, face auxquelles l'éducation nationale semble désemparée.
Alors, faut-il instaurer l'uniforme à l'école? Tiens, écoutez ce qu'en dit Roger Chudeau. Il est député RN du Loiret-et-Cher, et lui souhaiterait justement instaurer cet uniforme dans les écoles publiques.
La mode crée entre les collégiens des tensions, des rivalités, voire parfois des violences pouvant aller jusqu'au racket. Et ça crée du trouble. L'école ne connaît que des élèves. Elle ne distingue pas les enfants entre eux en fonction de leur niveau de fortune, de leur adhésion à telle ou telle culture ou à telle religion. Elle ne connaît que des élèves. Donc, la force symbolique de l'uniforme, c'est ça aussi. Vous entrez dans un sanctuaire républicain qui est l'école et vous portez l'uniforme de votre école.
Voilà pour ce député RN qui est favorable. À l'inverse, l'idée de l'uniforme ne séduit pas du tout Jean-Rémy Girard. C'est le président du syndicat national des lycées et des collèges.
Décider du jour au lendemain que tous les écoliers français et probablement les collégiens et les lycéens aussi vont se mettre à porter l'uniforme, c'est extrêmement compliqué à organiser et c'est à notre sens assez irréaliste. Il nous semble que l'école a des problèmes autrement plus graves que la question du port de l'uniforme aujourd'hui et qu'elle est dans un état de crise qui nécessite des mesures qui soient peut-être autre chose que des mesures, j'allais dire, médiatiques.
Mesures médiatiques inutiles, vous l'entendez avec ce syndicat d'enseignants, mais vous entendez aussi ce député RN qui estime que l'uniforme aurait une vraie force symbolique. Côté gouvernement, le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, n'est pas opposé au projet de ces députés macronistes, mais il ne se dit pas favorable non plus. Pour l'instant, il est extrêmement prudent. Il demande la création d'un groupe de travail. Bon, Amandine, on va quand même regarder un peu les faits. On va regarder notamment ce qui s'est fait dans le passé. Est-ce que l'uniforme a déjà été obligatoire en France ?
Alors, en tout cas, pas obligatoire par la loi. C'était dans les règlements intérieurs des établissements. Quand on pense uniforme en France, on a surtout en tête la blouse de nos grands-parents. Ça, c'était pour l'école primaire. C'était une tenue généralisée. On la portait parce que le textile, ça coûtait cher. Donc, on n'avait pas beaucoup de vêtements et on risquait de les tacher avec les stylos à plumes. Et cet usage s'est perdu avec l'arrivée du stylo à billes et aussi de la baisse du prix des vêtements. En revanche, dans le secondaire, il y avait bien un uniforme imposé par Bonaparte, mais seulement pour les internes.
Voilà, ça c'était, j'ai envie de dire, jadis, à l'époque.
Voilà,
en fait, ce qu'il faut dire, c'est que depuis mai 68, l'uniforme a disparu petit à petit de tous les règlements intérieurs des écoles, des collèges et des lycées.
Voilà, c'est ça, sauf en Outre-mer. Il est toujours porté en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. En métropole, il n'est obligatoire que dans certains établissements privés. Après, si on regarde un petit peu chez nos voisins, en Europe, il est plutôt rare, à part au Royaume-Uni et en Irlande, un élève peut être puni, voire renvoyé s'il ne le porte pas. Mais la tenue unique est plutôt la norme ailleurs dans le monde, en Asie, en Afrique ou encore en Amérique du Sud.
Alors et vous, qu'en pensez-vous ? Faut-il instaurer, ou en tout cas faut-il un retour de l'uniforme ? Parce qu'on l'a longtemps porté dans les écoles, les collèges français. Aujourd'hui, ça se fait encore en Outre-mer. Est-ce que vous souhaitez l'uniforme pour vos enfants aujourd'hui en France ? C'est vous qui allez prendre la parole, évidemment, au 32-16. Tiens, on va accueillir Mohamed qui nous appelle de Villeurbanne, c'est ça, hein, à côté de Lyon. Salut Mohamed.
Ouais, salut.
Mohamed, chef d'entreprise, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, exactement.
Je sais pas dans quel domaine, j'ai juste chef d'entreprise.
J'ai une société de convoyage de véhicules premium. En fait, on déplace des véhicules dans toute la France.
Ah, ça m'intéresse.
Le
veto, donc, du coup, pour le boulot, j'imagine, Mohamed ?
Pardon ? Ouais, exactement. J'avais une mission. Je devais partir. Là, je pars à Nantes, là.
Ok.
J'ai pris la route et puis, voilà.
Et vous avez écouté RMC, évidemment, sur la route.
Oui,
vous avez réagi.
Toute la journée, exactement.
Au 32-16. Et alors, cette question de l'uniforme, Mohamed, je ne sais pas si vous êtes parent d'élève. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants portent l'uniforme aujourd'hui ?
Bah, en fait, j'ai une expérience déjà, puisque j'ai été expatrié en Guadeloupe pendant 6 ans. Et, à ma grande surprise, là-bas, j'avais découvert justement que c'était obligatoire. Donc,
ce que disait Amandine, hein, ça se fait encore aujourd'hui en Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Les élèves portent un. Racontez-nous, Mohamed, vous qui y étiez, ça ressemble à quoi l'uniforme ? Parce qu'Amandine disait, on a le souvenir de la blouse de nos grands-parents. Ils ne sont pas en blouse, les élèves, aujourd'hui en Outre-mer.
Non, mais par contre, c'est mignon parce qu'en ils vous donnent en début d'année un espèce de modèle que vous devez faire coudre en fait, chez des couturiers sur place, locaux, avec un code couleur. Donc, c'est assez rigolo. Donc chaque classe a un code couleur, mais tout le monde est vraiment pareil. Et c'est vous qui devez en fait faire l'uniforme de votre enfant. Alors vous en faites 2-3 jeux et puis ça leur fait toute la semaine, quoi. Voilà.
C'est pas mal si on vous le donne. Et en fait, oui, la question des habits est réglée pour toute l'année, quoi.
Exactement. Et c'est vrai que
là-bas, ça fait pas débat quand on en parle entre parents. Personne dit il y en a marre de ces uniformes, on arrête, quoi.
Non, bien au contraire, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un petit peu un côté américain, l'appartenance à l'école, le blason, il y a ce côté-là, quoi, défendre ses couleurs, etc. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et du coup, la question se pose même pas, en fait, ça a toujours été comme ça. Et donc, chacun a un code couleur, et puis et puis du coup, bah voilà, appartient à son école, à sa classe, etc. quoi. Et c'est vrai que, si je puis me permettre, moi je trouve que le débat, en fait, il est biaisé en France parce que on a l'impression que, comme d'habitude, on veut utiliser ce sujet-là pour toujours parler des mêmes choses, c'est-à-dire viser une certaine population qui s'habille d'une certaine manière. Alors c'est vrai que moi, je suis pour le fait que quand même il y ait des tenues correctes, entre guillemets, uniformisées pour se rendre dans un établissement scolaire public. Je pense qu'il faut respecter un minimum de pudeur, de règles, etc.
Oui, Mohamed, on va dire les choses clairement là. Pour certains, l'uniforme, ça aurait le mérite de répondre à ce qu'on appelle les abayas, parce qu'il y a on en parle beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a ce phénomène, ces jeunes filles qui portent des robes. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est religieux, c'est peut-être traditionnel, en tout cas que voilà, ouais. qui viennent tester en tout cas les règles de la laïcité, et on se retrouve à avoir des débats sur la longueur des robes des jeunes filles dans les collèges et les lycées. L'uniforme, ça aurait le mérite de régler cette question et d'éviter de rentrer dans une sorte de police du vêtement dans les collèges et les lycées.
Bien sûr, non, mais tout à fait. Là-dessus, si c'est l'objectif, c'est clair qu'en fait, on contourne, et effectivement, plutôt que d'affronter une polémique, on fait passer ce type de règles. Et c'est vrai que ça pourrait effectivement éviter ce genre de débordement. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous savez très bien que la jeunesse, elle est provocatrice. Alors aujourd'hui, c'est la abaya. Demain, ça sera autre chose. Il y aura toujours des signes de provocation. Si vous faites passer un uniforme, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, on s'attaque pas aux causes, là. On s'attaquerait aux symboles. Mais bon, ça aurait le mérite d'être une solution pour les profs qui arrêtent pas de témoigner en disant, nous, on est dépassés. On sait pas à quel moment il faut intervenir.
C'est sûr que les profs, moi j'ai ma fille qui est au lycée, notamment en seconde, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'incivilité, mais pas que dans le domaine du vestimentaire, malheureusement. Enfin, c'est un autre sujet, mais les profs sont vraiment débordés. J'ai l'impression que soit on les forme plus correctement, soit ils sont dépassés par cette jeunesse qui, je sais vraiment pas comment expliquer le phénomène, mais je sais qu'il y a pas un soir où ma fille rentre sans me raconter une anecdote d'un prof qui craque sur quelque chose ou qui se fait pas respecter.
Ouais, ce qui est intéressant, Mohamed, on entend bien que voilà, ça va plus loin que la question des habits et de l'uniforme, mais voilà, c'est en tout cas sur cette question qu'on s'interroge ce matin. Mais vous avez raison de dire que certes vous êtes pour l'uniforme à l'école, au collège, au lycée, mais que ce serait pas la solution miracle pour régler tous les problèmes de l'éducation nationale, loin de là. Merci beaucoup Mohamed d'être venu témoigner. Je sais pas ce qu'on vous souhaite. Bonne mission, bonne route.
Ouais, merci beaucoup. Et puis merci à vous aussi pour toutes vos émissions. Bon, c'est vrai que c'est la première fois que je passe à votre antenne, et je suis quasiment toute la journée à vous écouter. Et vraiment, c'est magnifique.
Merci, ça fait plaisir.
Ouais, ça fait plaisir à Amandine, ça me fait plaisir. Et évidemment, vous avez eu le bon réflexe, Mohamed. Si vous nous écoutez, vous n'hésitez pas, vous le voyez, vous êtes bienvenue au 32-16. Et c'est très intéressant de vous entendre parce que voilà, nous, on n'a pas vécu comme vous en Guadeloupe. Et donc, vous avez un exemple très concret de ces uniformes qu'on donne en début d'année, ces tenues qu'on donne aux collégiens, aux lycéens. C'est très intéressant. Et ça fait réagir d'ailleurs sur Direct Studio, Amandine.
Oui, c'est ça. On a aussi Maxime qui nous dit qu'il a connu la tenue commune en Nouvelle-Calédonie aussi. Alors, il dit qu'il trouve ça bien, que ça met chaque enfant sur le même pied d'égalité. Donc voilà, il n'y a pas que en Martinique, Guadeloupe et Guyane, Nouvelle-Calédonie aussi.
Et ben voilà, vous n'hésitez pas vous aussi à prendre la parole ce matin, à témoigner. Vous êtes pour ou contre l'uniforme à l'école? Est-ce que ça répondrait à toutes les problématiques? Pas sûr, hein, comme nous le dit Mohamed à l'instant. Vous n'hésitez pas vous aussi à prendre la parole en toute liberté, à témoigner au 32-16 sur RMC. À suivre, ne bougez pas, juste après 5h, comme tous les matins, on va vous gâter. C'est aussi ça le matin sur RMC. Il y aura la voix du jour pour remporter des beaux cadeaux sur RMC. Et puis on va aussi découvrir le choix d'Amandine à 5h10.
Je vais vous parler des gens qui parlent tout seuls. Eh bien, ils ne sont pas fous du tout. Au contraire, c'est une habitude très saine, nous disent les scientifiques.
Eh ben, on va tout savoir. Amandine va parler toute seule sur RMC juste après 5h. Mais tout de suite, on va sourire avec l'ami Julien Cazard, le meilleur du Cazard enchaîné. 4h51 sur RMC. Bon réveil à tous. C'est l'heure de regarder les trois infos à la une de l'actualité ce matin avec Amandine.
Début du mondial pour les Bleus ce soir. L'équipe de France joue son premier match contre l'Australie. Coup d'envoi à 20h. 10 000 Français sont attendus au Qatar pendant cette Coupe du Monde.
Moi, je crois en l'équipe de France. Même sans Benzema, je pense que ça peut passer. Face à l'Australie, on va dérouler 3-0.
On y croit. À fond, c'est les meilleurs. On a gagné il y a 4 ans. Il n'y a pas de raison.
On y croit. Cette année, elle est pour nous encore.
Champion du monde.
Un agent du fisc tué à coups de couteau en plein contrôle fiscal hier soir à Bullecourt, un village du Pas-de-Calais. Sa collègue inspectrice des impôts a été retrouvée ligotée. Le suspect, un brocanteur de 46 ans, s'est ensuite donné la mort. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, est attendu à Arras en fin de matinée. Les maires ouvrent leur salon aujourd'hui à la porte de Versailles à Paris. 3 jours de congrès pour pouvoir agir, c'est ce que les élus réclament. Ils se disent préoccupés par l'inflation et la flambée des prix de l'énergie. Plusieurs ministres sont attendus et Emmanuel Macron s'y rendra demain.
Et puis un coup d'œil au ciel du jour, Géraldine de Mori.
Toujours agité, attention, vigilance orange pour de fortes pluies qui continuent sur les Pyrénées-Atlantiques. On a une vigilance orange aussi pour des vents violents en Corse toute la journée. On aura quand même quelques éclaircies entre deux averses et puis des températures qui sont de saison, 8 à 11 degrés généralement cet après-midi, mais on ira jusqu'à 18 à Nice.
Et à 4h52, c'est l'heure de retrouver le meilleur de Julien Cazard qui pendant toute cette Coupe du Monde nous régale sur RMC avec son Cazard enchaîné.
RMC, le Cazard enchaîné.
Cette Coupe du Monde a démarré, ça y est, c'est la fête, on oublie les polémiques, on oublie les prises de tête. C'est vrai que moi, c'est que le championnat, tout ça, on est à Doha, on est heureux d'être là. Et on est grisé par l'événement. Vous en avez parlé. Stéphane Guy, lui, il a démarré sa Coupe du Monde hier. Il était, mais tu sais, quand t'as la joie de vivre, quand t'es heureux. Oui. Il était avec Daniel et tous les deux là. On aurait dit deux gosses, Eric et Ramzy. C'était bien hier soir.
Et au don de leur personne physique, de milliers de travailleurs bien qui sûr. Ont donné leur vie pour qu'on ait cette manifestation déjà, pendant un mois. Bah oui, puis ça va. S'arrêter, Daniel.
On a non, en fait, il n'y a rien qui te permet de dire ça, Stéphane, et franchement, ça va devenir pénible.
Au bout d'un moment, maintenant,
ça devient usant.
Tu ne me détourneras pas de ce.
De ta bêtise, non, je ne vais pas t'en détourner, mais ça devient usant.
C'est un avis.
Si tu veux, c'est pénible. Je sais que toi, tu passes deux jours au Qatar, ça y est, t'es naturalisé.
Oui, bien sûr.
Je garde.
Ils m'ont donné de l'argent et ils m'ont payé. T'inquiète pas, Stéphane, c'est ça.
Non, je ne pense pas. Ils n'ont même pas besoin de ça.
Eh bien, il y a eu une belle ambiance. Et là, on va. Non, je pense que vous avez, ça va être sympa cette Coupe du Monde. Pauvre Stéphane Guy, qui reste encore 30, j'imagine qu'il reste 30 jours pour Stéphane Guy. Alors après, il y a des grands débats géopolitiques entre Daniel et Stéphane, c'est normal, car je rappelle qu'ils ont la formation. Hein, Stéphane, il commentait les courses sur Paris Turf et Daniel, il commentait la Ligue 2 sur TPS à ses débuts. C'est une légitimité. Et dans ce débat intéressant sur les conditions du Qatar, il y a eu un invité. Un invité oui. qui était coach de performance athlétique, qui vivait au Qatar. Et alors le mec, il nous a sorti un truc complètement lunaire.
Moi, alors je suis pas un expert en géopolitique.
Ah bah c'est quoi ce mec? Je suis pas un expert en géopolitique. Mais évidemment que t'es pas l'expert en géopolitique, sinon on te laisserait pas parler. T'es pas sur France Culture, il n'est pas sur France 24, t'es sur RMC. Mais c'est prêt pour qui ce mec? Je suis pas un expert en géopolitique, mais on fait que ça toute la journée, nous. Les débats géopolitiques sur RMC, c'est fromager, commentateur de foot, ancien handballeur et joueur de poker. C'est quand même pas compliqué, bordel. Non mais il y a des mecs, non mais pourquoi on les invite ces gens-là, quoi? Je suis pas un expert en géopolitique. Oh la ringard.
RMC, le Cazard enchaîné.
Julien Cazard, qui ne manque rien de la Coupe du Monde et qui ne manque rien sur RMC, vous l'entendez, on le retrouve ce soir évidemment pour son Cazard enchaîné. Dans Hôtel sans flamme, c'est votre rendez-vous foot, intégral foot hein, évidemment, pendant cette Coupe du Monde, tous les soirs, tous les après-midi sur RMC pour ne rien rater de la Coupe du Monde. Il est 4h55, on continue avec notre débat hein, ce matin autour de l'uniforme à l'école. Je vous rappelle que désormais c'est la majorité hein, qui s'empare du sujet, 7 députés du groupe Renaissance qui planchent sur un texte, une loi instaurant l'uniforme à l'école, une tenue commune. Ils n'utilisent pas le mot uniforme, ils parlent d'une tenue commune pour tous les écoliers, les collégiens, les lycéens. Est-ce que vous y seriez favorable? On vous pose cette question ce matin au 32-16. Et puis je vois aussi tous vos messages là en direct sur notre appli RMC grâce à Direct Studio. Maxime qui nous disait qu'il avait connu justement cet uniforme en Nouvelle-Calédonie et qu'il était à fond pour parce que ça se pratique encore beaucoup. Enfin, ça existe toujours, c'est toujours instauré en Guadeloupe, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, en Outre-mer. Luc nous dit, moi aussi, l'uniforme à l'école, je suis pour, mais il faut absolument que ces futurs uniformes soient fabriqués en France. Et oui, ce serait aussi une manière de relancer l'industrie textile en France, nous dit Luc, qui y voit une bonne solution. Et à l'inverse, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Ethan nous dit, pour moi, rendre l'uniforme obligatoire à l'école, ce serait donner raison aux harceleurs. Tout le monde doit pouvoir venir habiller comme il le souhaite à l'école, sans que le moindre jugement ne soit prononcé, peu importe le vêtement. Il faut laisser les gens tranquilles et laisser la liberté aux élèves de s'habiller comme ils veulent, nous dit Ethan. Et puis Ellie lui nous dit, l'uniforme à l'école, c'est vraiment pas l'urgence, il faudrait déjà commencer par interdire beaucoup plus strictement les smartphones dans les cours des collèges et des lycées. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut instaurer l'uniforme à l'école? Vous prenez la parole ce matin, évidemment, on vous attend au 32-16 et sur notre appli RMC. Et puis à 4h57, les infos approchent, mais comme tous les matins, on se réveille en musique.
RMC, la playlist de Charles Matin.
La playlist, c'est toute l'équipe, tous les matins, qui partage ses coups de cœur, son humeur en musique. Tiens, on va faire un tour au standard avec Quentin Dubois, Quentin du Standard.
Bonjour. Salut tout
Quentin,
le monde.
Comment ça va ce matin?
Très bien.
Qu'est-ce que tu as envie d'écouter?
Ce matin, j'ai envie d'écouter un groupe britannique qui s'appelle The Wombat et leur titre, Worry. Stand
paranoia if it's really there.
Voilà donc l'extrait de l'album Fix Yourself Not the World, sorti en début d'année. C'est de l'indie rock qui vient de Liverpool. Et si vous aimez les bons riffs et les guitares, les refrains efficaces, vous pouvez écouter sans souci.
Waouh, si on aime les bons riffs.
Oui.
Ah, j'adore.
Mais c'est un mot qui existe.
Ah, mais bien sûr, ça existe.
C'est voilà. Bien mon style.
Ouais, Géraldine est sous le charme des Wombats. Elle aime les bons riffs de Liverpool, Géraldine. Tiens, on va aller faire un tour dans notre régie, retrouver notre réalisateur, Fabien Le Toulec. Salut Fabien.
Et bonjour tout le monde.
Et toi, est-ce que tu aimes les bons riffs?
Oui, mais je crois qu'il n'y en a pas du tout dans la musique que moi j'ai choisie ce matin.
Ah, ça ne rajeunit pas, hein. Yannick.
Non. Voilà, exactement. Ouais.
Yannick qui avait repris, massacré diront certains, Claude François ces soirées-là, mais ouais, c'est un peu vintage, mais ça rappelle quelques souvenirs, on va le dire comme ça, Fabien.
C'est ça.
Et puis tiens, Géraldine Demory, toi, si t'as envie de participer, bah fais-toi plaisir, qu'as-tu envie d'écouter ce matin?
On va repartir dans des bons riffs avec Garbage, Only Happy When It Rains. Déjà parce que Garbage, voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu. Et
mais oui, c'était bien. Plaisir.
Et après, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est parce que c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Et donc, forcément, garbage, déchets, voilà. Il y a plein d'animations en ce moment sur ce thème.
Et puis en plus, Only Happy When It Rains.
Et oui, pour vous dire.
Heureux quand il pleut.
C'est ça, pour vous dire que c'est une bonne nouvelle quand il pleut, j'arrête pas de vous le dire.
Mardi 22 novembre,
l'info sur RMC.
Il est 5h, bon réveil à tous, bienvenue sur RMC, bon courage à ceux qui sont déjà sur la route, déjà au boulot, c'est l'heure de votre journal présenté par Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un inspecteur des impôts tué hier lors d'un contrôle à Bullecourt dans le Pas-de-Calais. Le principal suspect, un brocanteur endetté, s'est suicidé. Les maires de France en première ligne face à la crise de l'énergie, l'inflation, leur congrès annuel commence aujourd'hui. Objectif 3e étoile, le mondial commence pour les Bleus ce soir 20h face à l'Australie.
Un agent du fisc tué hier lors d'un contrôle dans le Pas-de-Calais.
Ça s'est passé dans le village de Bullecourt. La victime, un inspecteur des finances publiques de 43 ans, tué à coups de couteau. Il s'était présenté chez un brocanteur avec une collègue pour une vérification de la comptabilité. Le principal suspect, ce brocanteur, s'est suicidé, Siam Spencer.
Prévenu par un voisin, les gendarmes arrivent sur place à 18h. Dans la maison du brocanteur, une femme, inspectrice des impôts, est ligotée, attachée à une chaise, sauve, mais complètement sous le choc. Les gendarmes trouvent ensuite un premier corps, celui du contrôleur fiscal de 43 ans, décédé et dont la dépouille porte des traces de coups de couteau. Puis, un second corps, celui du brocanteur, est retrouvé proche de son domicile. Il se serait suicidé selon les premières constatations. Un brocanteur par ailleurs endetté, divorcé et père de 2 enfants. Une personne lambda et un voisin discret selon le maire de Bullecourt. Au Sénat hier soir, le ministre en charge des comptes publics, Gabriel Attal, a évoqué un drame innommable. Il est attendu à la direction départementale des finances publiques d'Arras en fin de matinée.
Siam Spencer pour RMC. Aujourd'hui commence le congrès de l'Association des maires de France. C'est à Paris. Des maires très inquiets. Selon une étude du Cevipof, les 3/4 d'entre eux sont préoccupés par les prix de l'énergie et 44% craignent que la situation se dégrade encore. Ces maires en première ligne, RMC les a rencontrés. Illustration dans la banlieue de Mans, direction Allonne avec Hélène Terzian.
Le maire monte à bord de sa voiture comme un pompier à bord de son camion.
C'est comme ça qu'on prend en permanence le pouls de la ville. Les maires sont à portée d'engueulade.
Ici, pas d'engueulade.
Monsieur le maire, on a besoin d'aide.
Gilles Le Proust est interpellé par Safia sur le coût de la vie.
Et moi, je me trouve avec 3 enfants, j'ai une voiture, tout est cher.
Le carburant.
Cette inquiétude, Émilie Pelzac la voit dans le centre d'action sociale qu'elle gère à la mairie.
On entend des Allonnais qui n'y arrivent plus.
Les aides pour payer des factures et loyers impayés ont doublé.
Au mois d'octobre, on était déjà à près de 4 000 euros dépensés sur cette partie impayée énergie-logement, alors qu'on était à 1 500 euros en 2021.
Situation d'autant plus dure que les maires voient leurs propres factures exploser, comme celle de l'énergie. Gilles Le Proust doit faire des choix radicaux.
On a un projet de construire une crèche. On la met un peu en stand-by parce que, effectivement, on ne peut pas s'engager sur un gros budget d'investissement.
Il lance un appel au président.
Je dirais même pas aidez-nous, c'est que respecter les communes.
Une seule solution pour lui, que les dotations de l'État soient indexées sur l'inflation.
Emmanuel Macron est attendu demain au Congrès des maires. Elisabeth Borne, jeudi, la première ministre qui passe en force pour la cinquième fois. Le 49-3 actionné sur la partie recette du budget 2023 de la Sécurité sociale hier. Les députés La France Insoumise ont annoncé dans la foulée le dépôt d'une nouvelle motion de censure. Et une nouvelle cyberattaque en Guadeloupe, cette fois de grande ampleur. Le conseil régional est visé. Tous ses réseaux informatiques interrompus pour sécurité. La région a porté plainte. 5h04 sur RMC. Ça y est, c'est le coup d'envoi. Les Bleus entrent dans la compétition ce soir, 20h face à l'Australie.
RMC. Coupe du Monde 2022.
L'équipe de France tenante du titre, un défi, offrir une troisième étoile au football tricolore pour Didier Deschamps, c'est ce qu'il a dit hier. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas aller plus haut, on ne peut faire qu'aussi bien. Loïc Braillet, malgré les forfaits en série, les Bleus restent-ils favoris?
La deuxième étoile sur le maillot bleu est trop brillante pour passer inaperçue auprès des autres nations. La France parmi les favoris, oui, mais les journalistes étrangers s'interrogent quand même quel est son vrai niveau. Ça tombe bien, nous nous posons la même question. Une seule victoire lors des 6 derniers matchs, un sélectionneur en fin de contrat après le mondial et une nouvelle génération de joueurs appelés Tchouaméni, Fofana, Konaté, Kamavinga, Dizazi, Guendouzi. Ils jouent tous dans de grands clubs européens, mais ont-ils l'étoffe pour se hisser au niveau de 2018? Ils seront en tout cas guidés par les champions du monde qui ont évité les pépins physiques, Lloris, Pavard, Griezmann, Giroud et bien sûr Kylian Mbappé, la star du PSG qui rêve de rejoindre Pelé, dernière légende du foot à avoir été champion du monde deux fois de suite.
La victoire, les supporters. On rêve aussi évidemment à Toulouse, par exemple, on est optimiste.
Moi je crois en l'équipe de France, même sans Benzema je pense que ça peut passer. Face à l'Australie, on va dérouler 3-0.
Mais ça va être très compliqué, parce que l'Australie c'est pas une petite équipe quand même, et beaucoup de blessés, et ça va être très très, très dur.
On y croit, à fond.
Bah parce que c'est les meilleurs, on a gagné il y a 4 ans, il n'y a pas de raison.
On y croit, cette année elle est pour nous encore.
Champion du monde.
Quand on regarde un match d'équipe de France, on porte toujours le maillot bien sûr, on porte les drapeaux, on se fait les petits tatouages, voilà, on est grand supporter de l'équipe de France bien sûr.
Rendez-vous donc à 20h ce soir pour le premier match de l'équipe de France en direct sur RMC, RMC Radio officielle du Mondial. Vous pouvez suivre tous les matchs en intégralité. À 11h d'ailleurs, notez qu'il y a l'entrée en lice de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Et puis les résultats d'hier aussi avec les Américains et les Gallois qui ont fait match nul un partout. Victoire 2-0 du Pays-Bas contre le Sénégal et l'Angleterre a battu l'Iran 6-2. L'équipe iranienne muette durant l'hymne national en signe de soutien aux victimes des manifestations durement réprimées dans leur pays.
C'était le journal de Marguerite Dumont à 5h06 sur RMC. Oui, c'est cette équipe d'Iran, ces joueurs iraniens solidaires des femmes dans leur pays et qui, on peut le dire, au risque peut-être même de leur vie, n'ont pas chanté l'hymne national hier. Vous avez vu ces images, on va y revenir tout à l'heure dans la Story Sport. Ils ont risqué leur vie hier avec ce signe de protestation, là où on a appris aussi que tous les capitaines des sélections européennes, les Français, mais aussi les Anglais, les Allemands, n'allaient pas porter le fameux brassard de soutien à la communauté LGBT, le soutien, comment dire, même ce brassard arc-en-ciel. Ces joueurs ont peur de le porter, ne le porteront pas de peur de recevoir un carton jaune. Voilà, les capitaines. Bon, voilà, chacun sa forme d'engagement et chacun sa forme de courage. On va le dire comme ça, mais on va continuer à en parler ce matin, évidemment, sur RMC aussi, de ce courage des joueurs iraniens. Et puis, à 5h07, je sais que vous l'attendez. Oui, c'est l'heure de jouer.
RMC, la voix du jour.
La voix du jour, c'est cette voix tous les matins qui vous permet de gagner des beaux cadeaux au 32-16.
Et attention, il faut tendre l'oreille car il va falloir reconnaître une voix. Comme chaque matin, on va écouter un court extrait d'une personnalité. Si vous reconnaissez sa voix, vous composez le 32-16 pour gagner. Attention, on écoute.
Quand vous rêvez pas de jouer le milieu de tableau ou de descendre. Je pense que tous les enfants rêvent de toucher les étoiles, de remporter les plus grands titres. C'est de ça que je rêve et que j'ai toujours rêvé, donc je m'accroche.
Alors, qui s'accroche à ce rêve, qui nous parle d'étoiles. Franchement, c'est facile, non, Amandine?
Oui, bah, en tout cas, si vous reconnaissez... Bah, alors, moi, j'ai reconnu, oui, même moi.
Mais toi, tu ne peux pas jouer. Alors, ouais, ceux qui ont reconnu, ça, qui composent le 32-16, là, qu'est-ce qu'ils vont gagner?
Voilà, alors, nous, on vous offre un coffret de 4 bracelets, les interchangeables, fabriqués en France, parce que, bah, on pense déjà à vos idées de cadeaux de Noël.
Mais oui, voilà, ces 4 bracelets, qui sont très jolis, d'ailleurs, les interchangeables, vous les gagnez tout de suite au 32-16, si vous avez reconnu l'homme qu'on vient d'entendre, l'homme qui... court après la troisième étoile, ce sera ce soir 20h face à l'Australie. Vous composez tout de suite le 32-16 et si vous êtes rapide, vous êtes le gagnant, vous appelez Quentin au standard et le gagnant sera en direct avec nous à l'antenne avant 5h30.
La voix du jour sur RMC avec les interchangeables, la marque de bijoux et accessoires tendance entièrement fabriquée en France.
Et avant 5h30, on va aussi se marrer sur RMC avec le meilleur d'Arnaud Demanche. Et puis tout de suite, à 5h08, c'est l'heure de découvrir le choix d'Amandine.
Et je vais vous parler des gens qui parlent tout seuls, car ils ne sont pas fous du tout. Au contraire, c'est une habitude très saine, nous disent les scientifiques.
Amandine se parle à elle-même tout de suite sur RMC.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Amandine Réau. Charles Magnin.
5h10, bon réveil à tous sur RMC. C'est l'heure de l'info en plus dénichée par Amandine.
Le choix d'Amandine.
Amandine, ce matin, tu as choisi de nous parler des gens qui parlent tout seuls. Et je crois qu'on peut le dire, c'est ton cas, non ?
Oui, j'avoue, c'est un petit peu mon côté spontané. Ouais.
Bon, bah, si vous aussi, vous faites comme Amandine, pas d'inquiétude, on n'est pas fou quand on parle seul.
Et non, c'est même parfaitement sain et ce sont des psys qui le disent. Marie-Claude Gavard, dans son livre « Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» aux éditions Marabout, une thèse confortée par plusieurs études américaines. Alors bah, peut-être que ça va vous rassurer si vous avez l'habitude de laisser échapper un petit cri quand vous vous cognez. Ou carrément bah, un juron.
Oh, ta merde de brasse.
Pour d'autres, ça va jusqu'à commenter tout ce qu'ils font. Et ça peut avoir un côté très agaçant. Vous savez, le genre de personne qui décrit chacun de ses gestes ou chacune de ses pensées sans aucun filtre.
Fleur bleue et pile rouge, fleur bleue et pile rouge, fleur bleue et pile rouge. Évidemment, ce serait plus facile si j'étais pas daltonien.
Voilà, c'est un peu... Je sais pas si t'as reconnu l'âne dans Shrek.
Mais oui.
Et d'ailleurs, en fait, on le voit dans la fiction. Moi, j'ai surtout pensé à des dessins animés. Les personnages qui parlent tout seuls sont vraiment bizarres. C'est les méchants. Gargamel qui prépare un plan machiavélique pour enlever les schtroumpfs.
Parfait. Cet endroit est tout à fait ce qu'il me faut. Ces horribles petites pestes bleues ne vont pas tarder à se montrer. En attendant, nous allons les guetter de l'intérieur de mon miroir magique.
Ou encore la sorcière qui empoisonne une pomme pour tuer Blanche-Neige.
Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison.
Et tout ça, ça explique sûrement pourquoi dans nos représentations, les gens qui parlent tout seuls sont un peu zinzin.
Ouais, mais alors, du coup, tu nous dis, il y a des études, mais qu'est-ce qu'elles montrent exactement? On nous dit que ces gens-là ne sont pas fous, enfin, vous n'êtes pas fous, hein, on va t'inclure dedans, Amandine. Mais alors, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça aurait de bénéfique de parler tout seul?
Et bah, du coup, hormis le fait d'exprimer ses sentiments, ses réactions, comme j'ai dit, voilà, quand on se fait mal, par exemple, bah, ça permet plusieurs choses. Déjà d'être moins étourdi. Si dans ma tête je pense au fait que je dois sortir les poubelles, eh bien j'aurai moins de risque de d'oublier de le faire si j'exprime cette pensée à voix haute.
Non, bah, si j'ai bien compris, je me dis tiens, il faudra que je pense à descendre les poubelles ce soir, mais c'est encore plus efficace si je le dis.
Exactement.
Je dis ce soir, je descends les poubelles alors que je suis seul. Je prononce cette phrase et je suis pas fou. Bah,
tu feras le test, tu me diras demain.
Oui. Je vais tester.
Voilà. Alors ensuite, parler tout seul, ça peut aussi permettre de s'encourager quand qu'on a du mal à se concentrer ou qu'on n'est pas en confiance, le fait de se dire allez, on se motive, ou carrément de se parler à soi-même à la deuxième personne en disant son prénom. Je vois que tu rigoles, hein, mais c'est, ça marche.
T'imagines voilà, face à ton
allez,
miroir.
Allez, Amandine, tu vas y arriver.
Mais je fais ça le matin aussi en me réveillant face au. Allez, Charles, ses yeux vont finir par s'ouvrir, ses cernes vont disparaître. Tu vas y arriver ce matin.
Mais non, mais figure-toi que c'est quand même très sérieux parce que ça se vérifie scientifiquement dans une étude des chercheurs américains ont observé auprès de joueurs de basket qu'ils passaient le ballon plus rapidement s'ils venaient de s'encourager eux-mêmes à voix haute, du coup bah, en prononçant leur prénom, enfin voilà. Et puis après, alors bon, il y a carrément, ça c'est pas mon cas, hein, mais il y a des gens qui le font, c'est de se parler à soi-même comme on ferait par exemple à un confident ou à un psy, et le chanteur Avicii dans cette chanson on reconnaît qu'il le fait.
Said to loneliness, and some nights I talk in my sleep. I said the words I never said when you were with me.
Voilà, mais ce qu'on peut noter en tout cas, c'est que ces dernières années dans la pop culture, il y a eu un changement quand même de représentation avec...
Oui, on ne passe plus pour un fou quand on se parle.
Non,
en fait.
Parce qu'il y a de plus en plus de personnages qui parlent tout seuls, qui commentent ce qu'ils sont en train de vivre à la caméra. Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais voilà, j'ai fait un petit blind test. On va voir si tu reconnais les personnages de ces séries. Alors, bon, c'est vrai qu'ils ont un petit grain de folie, mais c'est pour ça qu'on les aime aussi.
You know that feeling when a guy you like sends you a text at 2 o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you? And then you open the door to him like you've always forgotten he's coming over.
Any pugilist worth his salt knows when someone's on the ropes, that's when you throw a combination to the gut and a left hook to the jaw.
For any reason whatsoever.
Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going. I just hope I find it along the way. Like an improv conversation.
Ça, c'est Michael Scott.
Oui.
Dans The Office.
The Office.
Et
c'est une de mes séries préférées.
On a eu Kevin Spacey, non, dans House of Cards.
Ouais, c'est ça,
qui parlait beaucoup à la caméra aussi tout seul. C'est vrai. Dans les séries, il y a de plus en plus de personnages qui parlent seuls à la caméra, c'est vrai.
Voilà.
Bah, comme quoi, on n'est pas fou. Du coup, quand on se parle tout seul, et c'était la science qui nous l'a appris et qui a visiblement beaucoup rassuré Amandine sur son petit.
Et nos auditeurs aussi.
Mais sûrement. Peut-être que vous parlez seul et donc la science vient vous conforter. Ce n'est pas un défaut. Au contraire, nous dit la science, on peut se parler à soi-même à haute voix. C'est même conseillé pour sortir les poubelles. C'est ce que je retiens ce matin. Voilà, ça peut servir de pense-bête aussi. Allez, il est 5h15 sur RMC. Et ce matin, il y a cette info qu'on vous dévoile, ces chiffres qu'RMC s'est procurés qui montrent que le rythme des démissions a doublé au sein de la RATP, au sein des transports parisiens, vous savez, les conducteurs de bus, de métro, etc. Le nombre de démissions a doublé depuis la crise sanitaire, une vague de départ des conducteurs qui démissionnent, ce qui vient expliquer en grande partie pourquoi. On entend beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, les usagers se plaindre, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de métro, les métros sont bondés parce qu'il n'y en a pas assez, les bus c'est pareil. Et ben, ça vient tout simplement d'une pénurie de conducteurs, les conducteurs s'en vont, démissionnent de plus en plus au sein de la RATP. Et justement, ça a fait réagir Jean-Philippe ce matin qui nous appelle de la Seine-et-Marne. C'est ça ? Bonjour Jean-Philippe.
Oui, bonjour Charles.
Bonjour Jean-Philippe.
De la Seine-et-Marne. Bonjour.
Alors Jean-Philippe, vous travaillez actuellement à la RATP, c'est ça ?
Oui, effectivement, depuis 22 ans.
Depuis 22 ans.
Je travaille à la RATP. J'étais 17 ans machiniste, chauffeur de bus.
Okay.
Et là, actuellement, depuis 5 ans, je travaille au métro.
Et vous comptez partir ?
Oui. Là, en janvier, je pars. Je pars, j'en ai ras-le-bol, les conditions sont devenues exécrables. Vous imaginez même pas la quantité de conducteurs de métro qui démissionnent. Hein. On en discutait encore il y a 3 jours avec un conducteur, il s'en va, il quitte la région.
C'est ce que montrent les chiffres, mais c'est presque un changement, c'est une révolution, parce que Jean-Philippe, vous allez peut-être me contredire, mais j'ai l'impression que la RATP, c'était une boîte où avant, quand on y entrait, on y faisait toute sa carrière, on se posait même pas la question, un peu comme la SNCF. C'est assez inédit que des gens démissionnent aussi, en tout cas aussi massivement, de la RATP, non ?
Mais le salaire, mais moi, après 22 ans, j'ai un bon salaire, je me plains pas. Mais les conditions se sont tellement dégradées que c'est devenu insupportable.
Quelle est la raison principale, vous diriez, de votre démission ?
La région parisienne, principalement. Le manque de conducteurs, en fait, la RATP n'a pas recruté assez vite des conducteurs, parce qu'avant, c'était les machinistes, les conducteurs de bus qui descendaient au métro. Et ils n'ont pas réussi à combler le trou pour pouvoir remettre d'autres machinistes. Ils n'ont pas recruté assez tôt. Ce qui fait qu'ils bloquent les conducteurs de bus pour descendre au métro et il n'y a plus de conducteurs de métro. Donc ils recrutent, il y a des petites sessions, mais il n'y en a jamais assez.
Et du coup, ça pèse sur ceux qui sont déjà en poste, non, j'imagine, parce qu'il faut combler le planning. Quoi. Il y a des trous dans le planning et on vous demande de bosser plus.
Exactement, tous les jours, c'est l'enfer. Il manque tous les jours des conducteurs et ça s'impacte sur la clientèle.
Ah bah ça oui, nous on est aux premières loges pour voir.
Moi aussi je suis aux premières loges.
Exactement.
Je vous garantis que c'est pas marrant tous les jours.
Sur le constat,
je plains les personnes qui prennent les transports.
Et Jean-Philippe, juste je me permets, parce que vous nous dites j'ai un bon salaire, on peut vous demander combien ?
Environ 2 800 € en moyenne par mois. Par mois.
Net ?
Net, oui.
Bon, non,
net
mais
avec
c'est...
les primes.
D'accord, mais non, mais c'est important de le dire, parce que bon, voilà, c'est un salaire, vous l'avez dit, tout à fait correct.
Oui, bien sûr, mais j'ai 22 ans d'ancienneté, attention.
Oui, bien sûr. Oui, mais ça ne suffit pas à vous faire rester, ou est-ce que je veux dire, malgré un bon salaire, la sécurité de l'emploi, etc., les conditions vous ont quand même poussé à quitter votre job, et vous savez ce que vous allez faire ensuite, Jean-Philippe ?
Non, pas du tout. Je regarde, je postule un petit peu, je fais des formations CPF, et puis après, je verrai une fois sur place en Martinique.
Vous allez vivre en Martinique Et vos collègues autour de vous, vous nous disiez, j'en vois de plus en plus, c'est la même chose, c'est le même constat pour eux, c'est que les conditions, les horaires sont devenus insoutenables, les conditions de travail.
Oui, tous les jours ils sont en retard, tous les jours ils rentrent avec une heure de retard chez eux, entre 25 minutes et 50 minutes de retard, ils en ont ras-le-bol, ils supportent plus. Déjà que c'est assez difficile entre les repos décalés, travailler dimanche et jour férié, mais bon, c'est un choix de vie. Mais tous les jours, ne pas pouvoir prendre de rendez-vous et rentrer avec une heure de retard, ils n'en peuvent plus. Et tout ça à cause des recrutements, bien sûr.
Ouais, et justement, la direction, là, je ne sais pas si vous avez déjà annoncé à vos chefs que vous comptiez démissionner. Qu'est-ce qu'on vous répond? Est-ce qu'on y a pas, ils n'essayent pas de vous faire rester?
Si, enfin, ils sont déçus. Ils sont déçus que je parte parce qu'effectivement, c'est compliqué de recruter des gens comme moi. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte énormément d'argent, une formation pour un... Pour recruter un agent à mon poste, ça coûte à peu près 15 à 20 000 euros. Hein, donc,
bah bien sûr, mais surtout, ils n'ont pas d'argument. Comment dire, ils ne peuvent pas vous dire, bah Jean-Philippe, tu as raison, il y a un problème, on va arranger un peu mieux les plannings, peut-être faire un geste financier. Ils n'ont rien à vous proposer d'autre que de vous dire, bah, c'est dommage, merci, au revoir.
Non, ils n'ont rien à me proposer d'autre. De toute façon, quoi qu'il en soit, de toutes les manières, je partirai. Enfin, c'était mon choix, déjà, je voulais partir. Là, maintenant, j'ai l'occasion, je pars. Mais non, le salaire ne suffit plus.
Bon, bah Jean-Philippe, je vous remercie d'être venu témoigner. C'est très concret ce matin.
Merci
sur
mon collègue parce qui vous contacte régulièrement le matin, Philippe, qui est conducteur de métro sur ma ligne.
Mais
justement.
C'est pour ça qu'on tenait à l'évoquer et qu'on a dévoilé ces chiffres ce matin des démissions, parce qu'on sait qu'on est très écouté parmi les conducteurs de bus, de métro, dans le transport en général, un peu partout en France. Mais du coup, avec vous, Jean-Philippe, on comprend mieux voilà, les raisons de votre départ. On sent que c'est une décision voilà, qui n'est pas prise à la légère, évidemment, surtout quand on a plus de 20 ans d'ancienneté au sein de la RATP. Et puis on vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle vie qui va s'ouvrir en janvier.
Merci beaucoup. Et puis écoutez, je souhaite bon courage à tous les agents de la RATP. C'est pas facile, tenez bon si vous pouvez.
Voilà.
Et puis, si vous avez l'occasion, faites autre chose. Il ne faut pas rester enterré là où on est. Si on ne s'y plaît pas, il faut partir.
Le message est passé ce matin, Jean-Philippe. Et puis vous pourrez continuer à nous écouter, hein, évidemment, en Martinique, grâce à l'appli RMC. On sera toujours avec vous. On vous accompagne. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'être venu témoigner ce matin au 32-16. Et puis, je vous signale justement qu'on sera avec un représentant de la CGT RATP tout à l'heure à 6h10 pour regarder plus dans le détail les réponses de la direction, ce qu'ils attendent pour mettre fin à cette vague massive de démissions au sein de la RATP, au sein des transports en Île-de-France. À 5h20, on va aussi continuer à débattre de la question de l'uniforme à l'école. Je vous rappelle que c'est la question qu'on vous pose ce matin au 32-16. Faut-il instaurer l'uniforme à l'école ? La majorité, hein, les députés macronistes, sont en train de plancher sur un texte pour instaurer ce qu'ils appellent, non pas un uniforme, mais une tenue commune au sein de l'école en France. Est-ce que vous y êtes favorable ? Là aussi, vous prenez la parole ce matin au 32-16. Et puis tout de suite, à 5h21, on va se détendre, on va sourire avec le meilleur d'Arnaud Demanche. 5h22 sur RMC, on fait le point sur les trois infos à la une ce matin, Amandine.
Les Bleus affrontent l'Australie ce soir pour leur premier match de ce mondial au Qatar. Coup d'envoi à 20h, 10 000 Français sont attendus au Qatar pendant cette Coupe du Monde.
Ah, il va falloir faire du bruit, quoi. On a nos drapeaux, on va bouger, on va sauter, comme on a fait déjà il y a 4 ans, donc ça va bien se passer.
Nos supporters français au Qatar. Un agent du fisc tué à coups de couteau en plein contrôle fiscal hier soir à Bullecourt, un village du Pas-de-Calais. Sa collègue inspectrice des impôts a été retrouvée ligotée. Le principal suspect, un brocanteur de 46 ans, s'est ensuite donné la mort. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, est attendu à Arras en fin de matinée. L'alerte de Santé publique France après le deuxième été le plus chaud dans l'Hexagone depuis un siècle. 17% de décès en plus par rapport à la normale hors canicule. Augmentation de la mortalité chez les seniors, mais le recours aux soins concerne toute la population. 2 fois plus de passages aux urgences et 3 fois plus de consultations SOS médecins.
Et à 5h23 sur RMC, dans toute cette actualité, on a besoin de souffler un peu, de se détendre, de sourire. Et ça, c'est Arnaud Demanche qui s'en charge tous les jours dans Apolline Matin. Et pour vous, les leftos, c'est l'heure de la séance de rattrapage avec le meilleur d'Arnaud Demanche.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Coupe du monde, la compétition qui a débuté hier, Arnaud, avec le match Qatar-Équateur.
L'affiche de rêve. Et avant ça, on a eu la cérémonie d'ouverture. Splendide, on aurait dit un film de la scientologie. Avec Casper, le petit fantôme géant, là. On avait envie d'appeler les Ghostbusters pour s'en débarrasser. Et puis, il y a eu la séquence où Morgan Freeman parle à un homme tronc qatari. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là. Parce que le Qatar, pour célébrer le foot, ils choisissent un mec sans jambes. Ça explique un peu mieux le niveau de leur équipe. La compétition continue. continue à affronter des polémiques. Et Gianni Infantino, le président de la FIFA, a défendu le Qatar en voulant jouer la carte de « on est tous égaux ». Alors il a déclaré « aujourd'hui, je me sens arabe, je me sens qatari, africain ». Gays, travailleurs migrants. Mon Dieu, mon gars, si tu te sens tout ça, c'est pas au Qatar qu'il faut aller, c'est sur France Inter. Et là, ta place.
Et puis hier, Arnaud, il y a Elon Musk qui a débloqué le compte Twitter de Donald Trump. Ce dernier qui a officialisé d'ailleurs sa candidature pour 2024.
Qu'est-ce qu'il va nous faire pour son deuxième mandat, Casimir, hein? Parce qu'il va mettre la barre plus haut que le premier, c'est sûr. Il va pas se contenter de recommander aux gens de boire de l'eau de Javel. Là, il va en boire lui-même pour montrer l'exemple. En tout cas, rien que son retour sur Twitter, ça a fait plaisir à certains. Immédiatement, Christine Kelly a tweeté, je vous jure c'est vrai, le retour de Donald Trump, c'est comme une sortie de prison, comme une liberté d'expression, dites-nous. En tout cas, CNews a couvert la nouvelle tout le week-end. Toute la journée, CNews vous fait vivre en direct le retour de Donald Trump. À midi, notre grand débat. Retour de Trump, le plus grand événement pour la démocratie depuis la libération, présenté par Christine Kelly, dont le professionnalisme sera nécessaire pour tenir les rênes d'un débat houleux. Et oui, car on n'est pas d'accord sur ce plateau. Le retour de Donald Trump, ça évoque plutôt pour vous la brise du printemps sur votre peau nue ou une soirée allongée devant un feu de cheminée en écoutant du jazz. Philippe Bilger, vous êtes magistrat, qu'en pensez-vous? Oui, écoutez, Christine, moi je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce retour évoque plus le rire pur d'un enfant. Philippe Devilliers, Philippe Devilliers, quelle est votre position?
Déjà, arrêtez de me cracher dessus. Non, Donald Trump n'évoque-t-il pas plus un chocolat chaud sous un plaid en regardant tomber la pluie?
Merci à vous deux. Voilà, toutes les opinions s'expriment sur CNews. Et à demain pour notre débat, la gauche, entité démoniaque ou maladie mentale? Et ben voilà. Non, mais...
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et on a déjà hâte de retrouver Arnaud tout à l'heure, 7h20, 8h20 évidemment, dans Apolline, matin 5h26, c'est l'heure de vous gâter.
RMC,
la voix du jour.
Et c'est Francis qui a été le plus rapide ce matin pour jouer avec nous à la voix du jour. Francis qui est dans Lyon, c'est ça? Bonjour Francis.
Tout à fait, je suis dans un pays de foot. Oui. Et c'est le moment où j'avais de parler de foot. Je suis dans le pays de Giroud.
Mais oui, évidemment, du côté d'Auxerre, vous êtes Francis?
Tout à fait, ah, à quelques kilomètres d'Auxerre.
Génial.
J'ai connu les belles années de la JOXR.
Mais oui, c'est vrai que ça va un peu moins bien là, mais il y a eu de très belles années. On va pas rappeler tout le glorieux passé, entre nous, Francis, le but de l'Asland contre Dortmund, il y avait but. Voilà.
Oui, mais à l'époque, il y avait pas la VAR.
C'est vrai. Avec la VAR, peut-être que Auxerre aura une Coupe d'Europe. C'est un autre débat. En tout cas, Francis, on l'entend, vous êtes levé tôt avec la patate, là. Vous êtes.
Je me suis levé tôt. Disons que je ne me suis pas couché, c'est surtout ça.
C'est la fin de la nuit de boulot, si j'ai bien compris.
Voilà, j'ai fait 21h, 5h du matin dans une grande usine agroalimentaire. Et puis, ça s'appelle les 3-8.
Ouais, un courageux de la nuit, Francis. J'espère qu'on va vous gâter. On va jouer tout de suite avec vous à la voix du jour.
Et oui, et avant d'écouter votre réponse, on rappelle le principe, il suffit de reconnaître la voix d'une personnalité. Un petit extrait qu'on vous a diffusé juste après les infos de 4h30. Alors, on réécoute votre réponse juste après, Francis.
Quand vous rêvez pas de jouer le milieu de tableau ou de descendre. Je pense que tous les enfants rêvent de toucher les étoiles, de remporter les plus grands titres. C'est de ça que je rêve et que j'ai toujours rêvé, donc je m'accroche à ce rêve.
Bon, Francis, si vous aimez le foot, c'est facile.
Bah oui, c'est notre petite tortue ninja, c'est Kylian Mbappé.
Mais oui, Francis, bravo. Vous l'avez reconnu. Vous avez reconnu Kylian Mbappé et donc vous avez gagné
un coffret de 4 bracelets les interchangeables fabriqués en France.
Et ben voilà, un coffret de bracelets, ça va peut-être faire plaisir à quelqu'un pour Noël. Vous en faites ce que vous voulez, Francis. On va vous envoyer tout ça dans Lyon. Vous quittez pas, on prend vos coordonnées hors antenne et on vous souhaite bonne journée, bonne nuit, comme vous voulez à cette heure-ci, Francis.
Plutôt une bonne nuit là.
Et bien bonne nuit alors.
10 minutes, je suis sous la couette.
Et parfait, Francis, on vous raccompagne avec RMC. Bon courage et à très vite, évidemment. Et puis on prend vos coordonnées hors antenne pour vous gâter. La Voix du Jour qui revient demain dès 5h.
La Voix du Jour sur RMC. Avec les interchangeables, la marque de bijoux et accessoires tendance, entièrement fabriquée en France.
Et à 5h28, la petite info bonus, Amandine, c'est cette expo qui nous plonge dans l'univers de la série Friends. I'll be there for you.
Ouais, ça s'appelle The Friends Experience. C'est une expo qui a ouvert hier à Paris, porte de Versailles. Alors, on peut se balader dans les décors de cette série culte new-yorkaise des années 90-2000. Il y a Central Perk, le café avec son fameux canapé orange. L'expo a aussi recréé la cuisine de l'appartement de Rachel et Monica. Enfin bref, c'est jusqu'au 23 janvier. Et dépêchez-vous si vous êtes fan, parce qu'il y a déjà beaucoup d'entrées qui ont été vendues malgré le prix, parce que c'est quand même entre 15 et 25 euros l'entrée.
Pivot! 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 Pivot!
Ça, c'est le fameux épisode où il tente de faire pivoter un canapé.
Ouais,
tout ça,
dans mon souvenir. Ouais,
je crois qu'on peut revivre la scène ici.
Exactement.
Dans cette expo de Friends Experience qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. Ouais, c'est jusqu'au mois de janvier, on a le temps. Ça coûte cher, hein, je trouve, quand même 15 à 25
ouais,
euros.
C'est pas donné.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Amandine Réau, Charles Magnin.
5h41 sur RMC, alors faut-il instaurer l'uniforme à l'école?
C'est la question du jour sur RMC.
Pensez-vous que votre directeur a eu raison de vous interdire les chandails à col roulé?
Non, parce que le col roulé sert à tenir chaud. Le col roulé avec le pull vert empêche de prendre le blazer ou la veste élégante qui, même à travers un tablier, se salive.
Les blue jeans?
Oui, parce que ça fait mauvais genre.
C'était en 1960 et déjà la question de l'uniforme à l'école faisait débat. La question revient régulièrement dans le débat politique ces dernières années, souvent portée par des élus de droite ou d'extrême droite. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est que l'idée fait son chemin au sein même de la majorité. 7 députés du groupe Renaissance ont rédigé une proposition de loi, un texte dans lequel, alors ils ne parlent pas d'uniforme, ils préfèrent parler d'une tenue commune. Bon, ça veut dire exactement la même chose, même si le terme est un peu moins militaire.
Ouais, ils défendent un outil qui favoriserait l'égalité et permettrait de lutter contre le harcèlement scolaire. Ils évoquent aussi les économies pour les parents qui n'auraient plus à acheter des vêtements de marque à la mode. En revanche, ils ne parlent pas de laïcité, même si ces dernières semaines, beaucoup ont estimé que l'uniforme serait une réponse au phénomène des abayas, ces tenues religieuses face auxquelles l'éducation nationale semble désemparée.
Alors, faut-il instaurer l'uniforme à l'école? Écoutez ce qu'on dit. Roger Chudeau, il est député RN du Loir-et-Cher et il souhaite instaurer l'uniforme dans les écoles publiques.
La mode crée entre les collégiens des tensions, des rivalités, voire parfois des violences pouvant aller jusqu'au racket. Et ça crée du trouble. L'école ne connaît que des élèves. Elle ne distingue pas les enfants entre eux en fonction de leur niveau de fortune, de leur adhésion à telle ou telle culture ou à telle religion. Elle ne connaît que des élèves. Donc, la force symbolique de l'uniforme, c'est ça aussi. Vous entrez dans un sanctuaire républicain qui est l'école, et vous portez l'uniforme de votre école.
Voilà, Roger Chudeau, député RN, favorable à l'uniforme dans les écoles. À l'inverse, cette idée d'un uniforme ne séduit pas du tout Jean-Rémy Girard. Il est président du syndicat national des enseignants des lycées et des collèges.
Décider du jour au lendemain que tous les écoliers français, et probablement les collégiens et les lycéens aussi, vont se mettre à porter l'uniforme, c'est extrêmement compliqué à organiser, et c'est, à notre sens, assez irréaliste. Il nous semble que l'école a des problèmes autrement plus graves que la question du port de l'uniforme aujourd'hui et qu'elle est dans un état de crise qui nécessite des mesures qui soient peut-être autre chose que des mesures, j'allais dire, médiatiques.
Mesures médiatiques et inutiles, voilà ce qu'on dit côté prof, mais vous entendez aussi ce député RN qui dit que l'uniforme aura une véritable force symbolique. Alors Amandine, on va regarder un peu les faits et puis on va regarder un peu dans le rétro aussi. Est-ce que l'uniforme a déjà été obligatoire en France?
Alors en tout cas, il n'y avait pas de loi, c'était plutôt dans les règlements intérieurs des établissements. Quand on pense uniforme en France, on a surtout en tête la blouse de nos grands-parents. Ça, c'était pour l'école primaire, c'était une tenue généralisée. On la portait parce que le textile, ça coûtait cher à l'époque, on n'avait pas beaucoup de vêtements, on risquait de les tacher avec les stylos à plumes. Cet usage s'est perdu avec l'arrivée du stylo bille et de la baisse du prix des vêtements. En revanche, dans le secondaire, il y avait bien un uniforme imposé par Bonaparte, mais seulement pour les internes.
Bon, et puis surtout, il a disparu petit à petit après mai 68. Hein.
Oui, sauf en Outre-mer, où il est toujours beaucoup porté, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie aussi, nous disait l'un de nos auditeurs tout à l'heure. En métropole, il n'est obligatoire que dans certains établissements privés. Après, si on regarde un petit peu chez nos voisins, en Europe, il est plutôt rare, à part au Royaume-Uni et en Irlande. Là, c'est le royaume de l'uniforme. Un élève peut même être puni, voire renvoyé, s'il ne le porte pas. La tenue unique, elle est plutôt la norme ailleurs dans le monde, en Asie, en Afrique. Afrique ou encore en Amérique du Sud.
Et vous, qu'en pensez-vous alors? Est-ce que vous êtes favorable à, j'allais dire, au retour? Il n'a jamais été obligatoire dans la loi, c'était dans les règlements intérieurs des établissements. Est-ce que vous souhaitez qu'on instaure un uniforme à l'école pour les écoliers? Oui, les collégiens, les lycéens. On va voir ce qu'en dit Jonathan au 32-16. Jonathan qui nous appelle de Vendée. Salut Jonathan.
Salut.
Bonjour Jonathan.
Jonathan, routier, c'est ça? Vous êtes déjà au volant là?
Ah, toujours à 5h, moi.
Eh bah, parfait, avec RMC et le bon réflexe. Vous avez composé le 32-16 parce que, je ne sais pas si vous êtes parent d'élève, Jonathan, mais vous seriez favorable à ce qu'on instaure un uniforme à l'école.
Eh si, moi je suis parent d'élève, j'ai 3 enfants.
Ah, donc vous êtes en première ligne, si j'ose dire, sur la question des vêtements des enfants. Et est-ce que vous, bah, en tant que parent, vous souhaiteriez que tous les matins, ils aient un uniforme? Ça éviterait quelques questions dans quelques débats sur la tenue à porter le matin à l'école. Ah, on a perdu
le seul souci qui me dérange, ouais. C'est que bah, ils grandissent.
Et alors, il faudrait changer d'uniforme tous les ans, c'est ça qui vous...
Ah bah des fois même plusieurs fois par an.
Ah ouais, mais ça on peut imaginer que l'école fournisse des tenues un peu en début d'année et que chaque année on change, non? Qu'on s'adapte. Enfin, si les autres pays arrivent à le faire à peu près intelligemment, on n'est pas plus bête que les autres.
En Angleterre, ils les fournissent?
Bah en tout cas, je pense que c'est financé en partie par les familles en début d'année. En tout cas, c'est dans certains internats en France, vous savez où ça se fait, bah, il y a une partie qui est financée par l'école, une partie par les parents. Mais alors, en tant que parent, Jonathan, vous êtes aux premières... Enfin, vous le savez comme moi, en début d'année, souvent, s'il faut racheter un survêtement, une paire de baskets, un manteau, etc., ça coûte vite cher aussi. Il y a un budget vêtement en début d'année. Donc, s'il faut mettre une petite partie de ce budget sur un uniforme qui évite de racheter 3 pulls, 12 t-shirts et 4 pantalons, ça règle un peu la question.
Je suis complètement d'accord, simplement en Angleterre, ça coûte très très cher.
Oui, c'est vrai.
Ça coûte très très cher en Angleterre.
Alors pour vous, en fait, si je vous entends, Jonathan, vous êtes favorable si c'est l'école qui fournit, quoi.
Bah, ou alors une grosse participation, pas comme en Angleterre où c'est quasiment toute la famille qui paye l'uniforme. Mmh. Le problème, c'est qu'effectivement, moi je vois l'autre fois, j'ai voulu acheter des shorts pour ma fille pour cet été. En fait, il n'y a pas de shorts, c'est que des mini-shorts.
Ouais, mais
Quand on demande au magasin des shorts normales, il n'y en a pas. Quand les gamines vont à l'école avec des crop tops, je ne suis pas sûr que ce soit la tenue idéale. Donc oui, effectivement, l'uniforme pourrait être très bien.
C'est vrai qu'on avait aussi eu ces débats sur les crop tops. Là, on a parlé des questions de laïcité. J'ai l'impression que tous les ans, il y a un nouveau débat vestimentaire dans les cours d'école. L'uniforme, ça a le mérite de couper court à tous ces débats. Exactement. Sur la longueur des tenues, sur les symboliques, etc. C'est vrai que ça a ce mérite-là. Ça gomme aussi, nous disent beaucoup, les différences sociales. Est-ce que pour autant c'est la bonne solution? Est-ce que ça, c'est pas juste mettre un peu la poussière sous le tapis, cette question de l'uniforme? On va continuer à en débattre ce matin avec vous au 32-16. Merci Jonathan d'être venu témoigner. Bon, il y a aussi la question du prix, c'est vrai. Une fois qu'on décide du principe d'un uniforme dans les écoles, les collèges, les lycées, qui est-ce qui paye? Ça aussi, ça sera une autre question à se poser, mais que vous pointez évidemment en tant que parent d'élève. Jonathan, vous avez bien raison. Et vous avez eu raison de passer témoigner ce matin par le 32-16. Vous n'hésitez pas à faire comme Jonathan ce matin. Vous prenez la parole parce qu'on va continuer à en parler tout à l'heure avec Apolline, dans Apolline Matin, de cette question de l'uniforme à l'école. Ces députés de la majorité qui sont favorables, qui ont rédigé un texte dans ce sens. On va voir ce qu'en pense le gouvernement. Pour l'instant, Pap Ndiaye n'est pas opposé, il n'est ni pour ni contre, il attend un peu. Voilà, on sent qu'on y va, qu'on marche sur des œufs sur cette question. Donc on va avancer avec vous ce matin au 32-16 et puis à 5h49. Vous avez deux rendez-vous, vous le savez, sur RMC. Deux hommes qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Anthony Morel.
Bonjour.
C'est déjà demain. Dans un instant, tu vas nous parler de la Coupe du Monde, ouais, à l'heure de la tech.
Exactement. Alors je sais pas si ce sera la Coupe du Monde la plus regardée de l'histoire, mais ce sera sûrement la plus surveillée de l'histoire, avec des applications espionnes. Les supporters sont espionnés en temps réel au Qatar. Ouais,
c'est Big Brother au Qatar dans un instant. Et puis Arthur Asquin, l'histoire d'Arthur dans un instant. Bonjour Arthur.
Bonjour Charles. Moi je vais te parler de nos confrères de CNN qui vont passer un nouvel an très sobre.
Ah, fini de picoler à la télé, c'est
exactement
ça ? On va tout savoir dans un instant. 5h51, bon réveil à tous sur RMC. Si vous venez de nous rejoindre, voici les trois infos à la une de l'actu ce matin avec Amandine Réau.
Début du mondial pour les Bleus ce soir. L'équipe de France joue son premier match contre l'Australie. Coup d'envoi à 20h. 10 000 Français sont attendus au Qatar pendant cette Coupe du Monde. Un agent du fisc tué à coups de couteau en plein contrôle fiscal hier soir à Bulcourt, un village du Pas-de-Calais. Sa collègue inspectrice des impôts a été retrouvée ligotée. Le suspect, un brocanteur de 46 ans, s'est ensuite donné la mort. Le ministre des Comptes public Gabriel Attal est attendu à Arras en fin de matinée. Les maires ouvrent leur salon aujourd'hui à la porte de Versailles à Paris. 3 jours de congrès pour pouvoir agir, c'est ce que les élus réclament. Ils se disent préoccupés par l'inflation et la flambée des prix de l'énergie. Plusieurs ministres sont attendus. Emmanuel Macron s'y rendra demain.
Et puis Géraldine de Maurice est très agitée aujourd'hui dans le ciel. Hein.
Avec des averses en particulier près de la Manche, sur le sud-ouest et en Corse. Ailleurs, c'est un peu plus calme, vous pourrez même avoir quelques éclaircies. Attention, vigilance orange pour de fortes pluies sur les Pyrénées-Atlantiques et pour un vent violent sur la Corse. Les températures cet après-midi, 8 à 11 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 14 près de l'Atlantique et jusqu'à 18 près de la Méditerranée.
5h52, on file au Qatar.
C'est déjà demain.
Avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour.
On a beaucoup critiqué les problèmes au sujet de l'environnement, le respect des droits humains aussi autour de cette Coupe du Monde. Mais il y a un autre aspect dont on parle un peu moins, la surveillance quasi obsessionnelle dont font l'objet les supporters, mais aussi, je dois le dire, les journalistes sur place, avec notamment l'espionnage systématique des smartphones.
Ouais, à tel point que la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, recommande fortement aux supporters qui se rendent sur place de laisser leur smartphone personnel à la maison et de partir avec un téléphone vierge. Idéalement un vieux téléphone qui traîne au fond d'un placard qu'on va réinitialiser, ou alors un téléphone à usage unique, un peu comme les trafiquants de drogue. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une fois arrivé au Qatar, les autorités obligent tous les supporters à télécharger deux applications. L'appli officielle de la Coupe du Monde où sont stockés les billets et une sorte de passe sanitaire. Le problème, c'est que ces applications cachent en réalité de dangereux spyware. C'est-à-dire, ce sont en fait des logiciels espions qui vont permettre de faire remonter toute l'activité du téléphone vers les autorités. Donc c'est la géolocalisation en temps réel, lire les SMS, les photos qui peuvent éventuellement d'ailleurs mettre un supporter en délicatesse par rapport aux autorités, parce qu'on ne peut pas non plus prendre en photo n'importe quoi, voir à quel site on s'est connecté. Et ça va même plus loin, puisque ces logiciels permettent aussi de supprimer ou de modifier le contenu du téléphone et même de passer des appels. Alors c'est pas l'apanage du Qatar, on se souvient des JO de Pékin où les athlètes devaient télécharger une application ou même chose qui était une application espionne, mais c'est vrai que ça va très très loin. Et le Qatar aurait même essayé d'acheter des IMSI catchers, qui sont en fait des mallettes avec une fausse antenne relais à l'intérieur qui vont capter toutes les communication dans un rayon de 500 mètres, et donc on peut en gros écouter absolument tout ce que vous racontez. Mais finalement, ça s'est pas fait, visiblement.
Mais du coup, s'ils sont espionnés comme ça, ça veut dire ils devront faire aussi attention à ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux ?
Alors oui, aussi, la CNIL recommande de faire très attention à ce qu'on publie, idéalement de verrouiller les réseaux sociaux pour la durée de la compétition, en tout cas de cacher tout ce qui a trait à son orientation politique ou sexuelle, parce que ça peut poser problème. Il est aussi conseillé de désinstaller les applications, par exemple, de paris sportifs, puisque c'est interdit. Et la DGSI, les renseignements du service intérieur, ont de leur côté toute une série de recommandations, notamment pour les professionnels, changer tous les mots de passe utilisés durant un séjour à l'étranger, installer un VPN sur son ordinateur, ou encore refuser toutes les clés USB qu'on pourrait vous donner sur place. C'est pas seulement au Qatar d'ailleurs, pour tous ceux qui voyagent en mode professionnel. Oui. Quand vous allez à l'étranger, vous faire très attention. On a l'impression d'être dans le bureau des légendes, mais ce sont des menaces qui sont bien réelles.
Parce que ça ne s'arrête pas là, le Qatar a aussi déployé un arsenal technologique de surveillance assez impressionnant, notamment en termes de reconnaissance faciale, c'est ça Anthony ?
C'est vrai que c'est un laboratoire de la société de surveillance que veulent installer un certain nombre de pays, et donc les supporters sont en permanence sous l'œil numérique de drones de surveillance qui survolent en permanence les stades et les rues, 15 000 caméras biométriques avec de la reconnaissance faciale. C'est une technologie qui est testée ailleurs dans le monde, mais qui n'est pas toujours au point. On se souvient d'ailleurs du fiasco, alors ce n'était pas du tout au Qatar, à Cardiff où se déroulait la finale de la Champions League en 2018, où les caméras à reconnaissance faciale testées pour l'occasion avaient détecté 2470 criminels. Je mets des gros guillemets à criminels, puisque seuls 173 d'entre eux avaient un casier judiciaire. Taux d'échec de 92% quand même.
Oui, donc...
pas tout à fait au point.
Bon, clairement, ça marche pas. Ça fonctionne pas encore, mais merci beaucoup Anthony de nous avoir alerté sur cette surveillance, ce Big Brother généralisé autour de cette Coupe du Monde au Qatar. C'est déjà demain à retrouver quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC. 5h56, c'est l'heure de l'histoire d'Arthur.
RMC, Charles Matin, l'histoire d'Arthur.
Arthur Asquin, tu nous racontes ce matin que nos confrères de la chaîne américaine CNN, bah oui, nos confrères qu'on embrasse d'ailleurs, je sais qu'ils nous écoutent.
Oui,
bon matin. Salut CNN. Nos confrères, les journalistes de CNN sont appelés à bien se tenir à l'antenne.
This is CNN Breaking News.
Oui, il y a un peu de grabuge au sein de cette antenne prestigieuse. Cela concerne la période du Nouvel An. La direction du géant de l'information est inquiète parce que le soir de la Saint-Sylvestre, il est de coutume que les présentateurs s'envoient un petit godet à l'antenne en direct depuis Times Square à New York.
Il s'en vient à 17h45 partout en Belgique. Pour la vocation, t'occupes pas à boire un verre. Hein.
Mais le nouveau boss de la chaîne, Chris Licht, a convoqué une réunion au sommet. Il est pas vraiment fan de ce traditionnel lâcher-prise de ses animateurs vedettes.
Vous avez un problème de boisson.
Ah, j'ai un problème avec la boisson maintenant.
Vous êtes un mormon, Peck.
À côté de vous, on est tous des alcooliques, c'est ça le problème.
Selon lui, la consommation d'alcool à l'antenne nuisait à la crédibilité des équipes de CNN et à la respectabilité dont elles pouvaient jouir auprès des téléspectateurs.
Mais parce qu'il y avait eu des dérapages ces derniers temps ?
Alors, c'est déjà arrivé que les présentateurs Anderson Cooper et Andy Cohen dépassent un peu les bornes en enchaînant les shots de tequila complètement morts de rire en plein direct et ça fait des dégâts, écoutez.
Allez !
Ils supportent pas très bien la tequila. Et leur collègue Dom Lemon, tout aussi éméché, s'est même fait percer une oreille en direct. Si, c'était l'année dernière. Et dans une séquence où il entendait défendre sa liberté d'expression, il a lancé un « Vous pouvez embrasser mon derrière, je m'en fous ».
Oui. Et donc quelques dérapages.
Ouais, on comprend que les patrons sont un peu frileux maintenant.
Mais c'est de la bonne antenne. Moi, je zappe pas si je vois ça.
C'est des traditions qu'on pourrait importer, moi, je dis. Mais
exactement.
Je zappe pas, mais oui. CNN, c'est quand même assez feutré, non, c'est très sérieux.
Arthur a la décence de s'envoyer des shots de vodka pendant la pub. Contrairement à nos confrères de CNN. 5h58, les infos approchent. Mais tiens, vous entendez la petite musique, c'est l'heure de l'info bonus avec Amandine. Et tiens, on va regarder des chiffres qui étaient très attendus, les audiences de la Coupe du Monde. Et c'est plutôt très bon.
Ouais, clairement, il n'y a pas eu d'effet boycott en France, malgré toutes les polémiques autour des questions environnementales et des droits humains. Le match d'ouverture Qatar-Équateur dimanche après-midi, qui n'était quand même pas l'affiche du siècle, a réuni 5,13 millions de fans. C'est 1 million de plus que le match d'ouverture du Mondial en Russie il y a 4 ans. En part d'audience, c'est à peu près équivalent, quasiment un tiers. Et donc, on verra ce soir si les téléspectateurs sont aussi nombreux à regarder le premier match des Bleus. 12 millions en 2018. C'était la même affiche d'ailleurs, ouais. France-Australie.
Et donc voilà, malgré les polémiques, les appels au boycott, les téléspectateurs étaient très nombreux au rendez-vous dimanche pour la cérémonie d'ouverture.
Mardi 22 novembre,
l'info sur RMC.
Il est 6h, bon réveil, bienvenue sur RMC, c'est l'heure de votre journal présenté par Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un inspecteur des impôts tué hier lors d'un contrôle à Bullecourt dans le Pas-de-Calais, le principal suspect, un brocanteur endetté qui s'est suicidé. 10 000 morts supplémentaires cet été en France, effet du Covid et de la canicule, chiffre frappant dévoilé par Santé publique France ce matin. Et puis, direction dans ce journal, Doha en direct, objectif 3e étoile, le mondial commence pour les Bleus ce soir, 20h face à l'Australie.
Un agent du fisc tué hier lors d'un contrôle dans le Pas-de-Calais.
Ça s'est passé dans le village de Bullecourt. La victime, un homme de 43 ans qui s'est présenté chez un brocanteur avec une collègue pour une vérification de la comptabilité. Le principal suspect, c'est lui. C'est ce brocanteur qui s'est ensuite suicidé, Siam Spencer.
Prévenu par un voisin, les gendarmes arrivent sur place à 18h. Dans la maison du brocanteur, une femme, inspectrice des impôts, est ligotée, attachée à une chaise, sauve, mais complètement sous le choc. Les gendarmes trouvent ensuite un premier corps, celui du contrôleur fiscal de 43 ans, décédé et dont la dépouille porte des traces de coups de couteau. Puis, un second corps, celui du brocanteur, est retrouvé proche de son domicile. Il se serait suicidé, selon les premières constatations. Un brocanteur, par ailleurs endetté, divorcé et père de 2 enfants. Une personne lambda et un voisin discret, selon le maire de Bullecourt. Au Sénat, hier soir, le ministre en charge des comptes publics, Gabriel Attal, a évoqué un drame innommable. Il est attendu à la direction départementale des finances publiques d'Arras en fin de matinée.
Une messe et une marche blanche organisée ce vendredi à Tonneins dans le Lot-et-Garonne en hommage à Vanessa. Son meurtrier présumé est en prison. Ce père de famille qui avait des problèmes de drogue et d'alcool a reconnu avoir étranglé et violé la collégienne de 14 ans vendredi dernier. Ce chiffre édifiant à présent, la mortalité a bondi en France cet été. 10 420 morts en plus selon le dernier bilan de Santé publique France entre le 1er juin et le 15 septembre, les responsables, le Covid et la canicule. Marion Gauthier, environ un quart de ce décès est imputable aux fortes chaleurs.
Ce sont 2800 décès en excès, c'est-à-dire en plus de ceux habituellement observés sur la même période hors canicule. Une surmortalité plus importante chez les plus de 75 ans. Le recours aux soins, en revanche, concerne toute la population. Les passages aux urgences multipliés par 2. Les consultations SOS médecins par 3 pendant les canicules, notamment pour des déshydratations. 7 accidents du travail en lien possible avec les fortes températures sont encore relevés. Mais Santé publique France souligne que la chaleur n'est qu'une des causes vraisemblables de l'excès de mortalité observée. Le Covid peut en être une autre. L'agence souligne tout de même la nécessité d'une adaptation de nos environnements au changement climatique, alors que l'exposition de la population aux canicules augmente.
et de 5. La première ministre a dégainé pour la cinquième fois le 49-3 hier à l'Assemblée nationale. Passage en force sur un texte sur le budget de la sécurité sociale 2022. Les Insoumis déposent une motion de censure. On vous en parlait sur RMC. Face à l'explosion du coût de l'énergie, l'entreprise Duralex dans le Loiret avait cessé sa production au début du mois. Au grand mot, les grands remèdes, l'État lui accorde un prêt de 15 millions d'euros pour reprendre son activité. Dans ce contexte, le message d'alerte du FMI à la France, il est temps d'arrêter le quoi qu'il en coûte. Le FMI qui recommande d'assainir les finances dès l'an prochain.
6h04 sur RMC, les Bleus ont rendez-vous avec l'histoire dès ce soir.
RMC, Coupe du monde de la FIFA 2022.
Coup d'envoi, 20h, l'équipe de France affronte l'Australie et les supporters trépignent.
Qui ne saute pas n'est pas français ! Qui ne saute pas n'est pas français !
Un rêve, décrocher une troisième étoile depuis 1962, le Brésil est le seul champion du monde à avoir réussi à conserver son titre. Évidemment, il y a des obstacles. Composé avec les forfaits qui se sont enchaînés juste avant le mondial et les blessés, on retrouve en direct tout de suite Loïc Braillet, envoyé spécial RMC à Doha. Loïc, quelles sont les toutes dernières infos sur la compo des Bleus ?
On commence à en avoir de très précises, hein, des informations sur cette composition. L'incertitude concernait Raphaël Varane et son état de forme. Le dernier entraînement a en tout cas validé son retour en forme, mais pas suffisamment pour qu'il débute dans le 11. Il sera donc sur le banc au coup d'envoi. Et c'est donc la jeune paire de défenseurs, Upamecano, 24 ans, Konaté, 23 ans, qui seront titulaires en charnière centrale. Pour le reste, Lloris dans les buts, Pavard, Hernandez sur les côtés de la défense, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann au milieu de terrain et devant Dembélé, Mbappé qui encadreront Olivier Giroud, donc le grand remplaçant de Karim Benzema, forfait vous le savez pour la compétition.
Merci Loïc. En direct depuis Doha pour RMC. Hier, Américains et Gallois ont fait match nul, un partout, victoire 2-0. Pays-Bas contre le Sénégal. L'Angleterre a battu l'Iran, 6-2. L'équipe iranienne muette durant l'hymne national en signe de soutien aux victimes des manifestations durement réprimées dans leur pays. La question de l'engagement est bien présente hein, durant ce mondial. La FIFA d'ailleurs a obtenu gain de cause, la Fédération internationale de football. Pas de brassard multicolore pour 7 pays européens, pas de maillot avec la mention Love pour la Belgique. Ils ont été menacés de sanctions sportives. Déception pour Julien Pontès, porte-parole du collectif Rouge Direct qui lutte contre l'homophobie dans le football.
On dirait qu'il y a eu une stratégie un peu différente et plus perverse, on va dire. On croyait jusqu'au bout que Harry Kane et Manuel Neuer étaient déterminés à apporter ce brassard de paix, de fraternité, tout simplement. Ça embête qui, ces messages de paix, de fraternité, d'égalité? Ça commence à bien faire maintenant, ces histoires de capitulation devant des régimes sanguinaires. On est en train de perdre toutes nos valeurs, mais je crois qu'on est en train de vendre toutes nos valeurs.
Et je vous donne le programme du jour pour ce mondial au Qatar avec à 11h l'entrée en lice de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Et bien sûr, le premier match de l'équipe de France ce soir dès 20h. Match à suivre sur la radio officielle du mondial. C'est quoi ? C'est RMC évidemment. Suivre ces matchs en intégralité et en direct.
Évidemment, France-Australie 20h à ne pas manquer sur RMC. L'avant-match aussi, l'after, l'après-match évidemment. Vous ne manquez rien de ce mondial. L'intégrale Coupe du Monde tous les jours sur RMC et Marguerite Dumont. Le prochain rendez-vous, c'est 7h pour un prochain journal dans Apolline Matin. À tout à l'heure, Marguerite, 6h07 sur RMC. Deux rendez-vous avant 6h30. Avant de retrouver Apolline, on va retrouver Emmanuel Le Chypre. Pour Le Chypre du jour, il y aura aussi la story de cette Coupe du Monde avec Thibaut Texer. Mais tout de suite...
La grande démission à la RATP depuis la crise sanitaire. Le nombre de départs de conducteurs de bus et de métro a doublé. Et ceux qui restent dénoncent leurs conditions de travail et leur niveau de salaire.
Et ben on va en parler tout de suite avec notre invité, Yacine Djiwa de la CGT RATP. Il est en direct tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Amandine Réau, Charles Magnin.
Il est 6h09, vous êtes bien sur RMC. Bon réveil à tous.
L'invité de Charles Matin.
Bonjour Yacine Djiwa.
Bonjour.
Vous êtes membre de la CGT RATP Bus. Vous êtes basé au centre de Malakoff, il me semble, près de Paris. Et vous êtes notre invité ce matin parce qu'RMC dévoile ces chiffres impressionnants des démissions au sein de la RATP. Le nombre de conducteurs ayant démissionné a quasiment doublé depuis la crise sanitaire. Ils étaient 160 à démissionner en 2018, 290 en 2021. Et le rythme 2022 est encore plus soutenu. Bref, c'est un peu la grande démission à la RATP. Alors, Yacine Dioua, qu'est-ce qui explique cette vague de départ? Il y a eu cette grève là, il y a une dizaine de jours, avec des revendications autour des salaires. Est-ce que c'est le seul problème, le niveau de salaire à la RATP?
Non, malheureusement, ce n'est pas le seul problème. En fait, il faut savoir, et ce qu'on essaye de faire comprendre aux usagers, parce que cette situation avec des temps d'attente insupportables ne nous convient pas. En fait, c'est aussi dû en grande partie à la casse de nos conditions de travail. Il faut savoir que les conducteurs de bus à la RATP, depuis le 1er août, ont vu un changement incroyable sur leurs conditions de travail. Ils se retrouvent à travailler une heure en plus, pas par an, pas par mois, pas par semaine, mais par jour. Une heure en plus par jour, avec une contrepartie de 240 euros brut annuels, ce qui est dérisoire, sans l'accord des organisations syndicales représentatives, et avec la suppression également de primes. Vous savez, on a des services qui sont difficiles en deux parties, avec des coupures entre les deux parties, sur une amplitude aujourd'hui pouvant aller jusqu'à 11 heures. Et en fait, avant qu'on avait ce type de service, on avait une petite contrepartie qui était une prime d'autour de 15 euros brut. Et en fait, on nous a supprimé ces contreparties. Donc on a toujours ce type de services qui sont très désagréables. Parce que comme vous l'avez dit, je suis au centre bus de Malakoff, mais on peut pas à habiter à Malakoff, les loyers sont trop chers. Donc beaucoup de mes collègues habitent en Essonne, etc. Et donc font beaucoup de kilomètres pour se rendre au travail. Et donc quand on a ces services, ben on est bloqué en fait au centre-bus.
S'il y a eu tous ces changements là, notamment pour les conducteurs de bus, et c'est parce qu'il y a la perspective de l'ouverture à la concurrence notamment. Et donc vous nous le dites, il y a des chauffeurs qui aujourd'hui, pour le dire concrètement, travaillent plus et qui gagnent presque moins s'ils ont perdu certaines primes.
Voilà, qui gagnent moins, oui, c'est ça.
Etc. Mais alors du coup, il y a conséquence cette vague de départ. Que fait la direction? Parce qu'on sait déjà que la RATP a du mal à recruter. Qu'est-ce qu'elle fait pour retenir ceux qui veulent partir?
La direction propose des petites mesures, mais qui ne sont pas suffisantes. Elle a proposé le système de parrainage pour inciter les conducteurs à trouver des candidats, c'est ce qui ne marche pas. Moi, j'ai vu aucune personne dans mon centre-bus.
Ça, c'est pour recruter Yacine. Mais Yacine Dioua, ma question, c'est quand le conducteur qui est en train qui est sur le point de démissionner, qu'est-ce que lui dit la direction, le manager, le directeur? Est-ce qu'il a des arguments à faire valoir pour lui dire non, mais reste, et voilà ce qu'on peut te proposer pour rester?
Ah non, il n'y a aucun argument.
On fait rien, on laisse partir les conducteurs.
Encore cette semaine, j'ai été à un repas de départ d'un collègue qui a démissionné. Et voilà, il n'y a aucun argument.
On fait rien pour les retenir.
Il y a rien pour les retenir parce que après, de toute façon, ça se joue pas au niveau de la direction des centres-bus. Ça se joue plus haut. Tant que à plus grande échelle, on revient pas sur la casse des conditions de travail et on n'augmente pas les salaires, le directeur, il peut avoir le plus beau discours, ça ne changera pas sa fiche de paye et la réalité des conditions de travail qu'il aura.
Alors justement, Yacine Dioua, sur ces conditions de travail, j'aimerais qu'on accueille Ludovic au 32-16. Ludovic qui nous appelle de Perpignan, mais il me semble, Ludovic, bonjour, que vous avez bien connu la RATP.
Oui, j'ai bien connu la RATP, bon, pas très longtemps, un peu plus de 6 ans, mais on va dire ça m'a suffi.
Et vous avez décidé de quitter la RATP au bout de 6 ans?
Au bout de 6 ans, je voulais même le faire un petit peu avant, mais bon, c'est vrai que malgré les horaires décalés avec les enfants, ça aussi arrange un petit peu. Hein. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. Mais après, voilà, dès qu'il y a eu l'opportunité de prendre la coupe des en fait, je l'ai fait. Voilà, tout simplement. Ma femme aussi qui était machiniste à l'RATP, pareil, au bout de 13 ans.
Et qu'est-ce qui vous a fait bouger? C'est le salaire, les conditions de travail? Qu'est-ce qui vous a fait quitter la RATP?
C'est ce que je disais tout à l'heure quand on était au téléphone. Déjà, les incivilités de la route, pas spécialement des voyageurs. C'est pas, je pense que c'est pas les pires. Au final, avec du recul.
Mais c'est la circulation.
La circulation, ça devenait de plus, c'était de pire en pire. Anne Hidalgo qui fait des travaux dans tous les sens, les pistes cyclables, les vélos ont beaucoup plus de droits que les bus dans leur propre couloir. Après, l'ancien collègue qui est au dépôt de Malakoff, je pense, il y a un peu moins de lignes de Paris, parce que moi j'étais centre-but de Montrouge et après centre-but de Béliard. Donc, c'est vrai que là, à ce niveau-là, on a eu pas mal de travaux, mais la circulation, c'est de pire en pire.
Ouais, donc c'est, voilà,
et je pense pas que ça change.
Ouais, donc les conditions de travail, si je résume, vous, c'était la difficulté du job. Yacine Diwa, vous l'entendez ça, Ludovic, voilà, c'est, j'ai l'impression quand j'entends Ludovic qui nous dit, bah, moi j'ai travaillé 6 ans à la RATP puis je suis parti, ça n'existait pas ça avant, vous avez plus de recul que nous, Yacine Diwa, j'ai l'impression qu'avant la RATP c'était une boîte comme la SNCF, on y entrait, on y faisait toute sa carrière. Aujourd'hui, on n'hésite plus à la quitter au bout de 5, 10, 15, parfois 20 ans d'ancienneté.
Oui, oui, bah exactement. Le collègue que j'ai accompagné cette semaine à un repas, il avait près de 15 ans d'ancienneté. C'était pas imaginable à une certaine époque. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus courant. Les gens se doutent qu'ils ne vont pas faire carrière. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, la possibilité d'un déroulement de carrière qui est de plus en plus compliqué. Mmh. Vous savez, quand vous rencontrez un conducteur de métro, très souvent, c'était un ancien conducteur de bus. Aujourd'hui, pour un conducteur de bus, c'est très difficile. C'est plus facile de devenir conducteur de métro quand vous n'êtes pas à la RATP que quand vous êtes déjà entré dans l'entreprise.
Donc, la mobilité interne. Alors, je vais quand même préciser que du côté de la direction de la RATP, on les a contactés au sujet de ces démissions. Ils nous disent, mais attention, ces démissions, pour l'instant, ça ne concerne que 2% des effectifs sur 16 000 conducteurs de bus à la RATP. Et ils nous disent, on a une campagne de recrutement qui se passe bien. On a 1100 postes pourvus sur un objectif de 1500 d'ici la fin de l'année. Donc, on arrive à recruter pour compenser ces départs, dit la direction Yacine Diwa.
La réalité, c'est ce que voient les usagers. Ils voient qu'il manque des bus. Les conducteurs, il suffit de filmer dans les salles du personnel, vous savez, où on reçoit notre courrier comme nos fiches de paye dans nos bannettes. On voit qu'il y a de moins en moins de bannettes. Et donc, c'est qu'il y a des départs. Après, il y en a qui démissionnent. Il y en a pour d'autres raisons. Bah, ils quittent complètement le travail. Ils ne viennent plus au travail. Donc jusqu'au jour où ils se font licenciés. Donc ça n'apparaît pas dans les chiffres des démissions.
Et rapidement, du coup, en plus, ces démissions ont des conséquences aussi pour les autres salariés qui doivent boucher les trous. Enfin, c'est ça dans le planning.
Oui, bien
quoi.
Sûr. Après les salariés comprennent. Hein. Il y en a beaucoup qui essayent de voir quel autre projet de réorientation ils peuvent avoir. Mais voilà, il n'y a pas un climat de où on en veut à ceux qui démissionnent, etc. Les gens les
comprennent. Non, mais ça complique la tâche de ceux qui restent. Et juste dernière question, Yacine Diwa, est-ce que il y a eu une grève déjà, c'est suivi il y a une dizaine de jours. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements prévus?
Oui, il y aura forcément d'autres mouvements parce que c'est pas une situation qu'on peut laisser faire sans rien dire. Malheureusement, le dialogue social à la RATP, comme je vous l'ai dit, les nouvelles conditions de travail, ça s'est imposé par la force.
D'accord.
On peut dire que niveau dialogue social, c'est pas terrible.
Donc d'autres mouvements de grève, en tout cas, sont éventuellement à prévoir dans les semaines qui viennent. Je rappelle, hein, Yacine Diwa, que vous êtes membre de la CGT RATP Bus. Ce matin, vous êtes venu avec nous commenter ces chiffres impressionnants du nombre de démissions à la RATP ces derniers mois. Et ça continue à vous faire réagir. Hein. Je vois toutes vos réactions au 32-16, mais aussi sur l'appli RMC, sur Direct Studio. Tous ces conducteurs de bus, de métro qui quittent aujourd'hui la RATP. 6h18, vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, Apolline Matin arrive évidemment. Et d'abord, vos deux rendez-vous, l'économie avec Emmanuel de Chypre et puis la story de la Coupe du Monde avec Thibaut Texer.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Amandine Réau, Charles Magnin.
Il est 6h20, place à l'économie.
Le chiffre du jour.
Avec Emmanuel Le Chypre, notre monsieur économie sur RMC. Le chiffre du jour, Emmanuel, c'est 15,7%.
Eh oui, vous en rêvez de ce petit plateau repas devant France-Australie ce soir, devant la télé, comme 93% des supporters d'ailleurs qui disent qu'ils regarderont la Coupe du Monde depuis leur domicile. Eh bien, ce plateau télé, il va vous coûter beaucoup plus cher qu'il y a un an, puisque le produit phare, les chips, affiche une hausse de quasiment 16%, donc 15,7% sur un an. C'est ce que nous dit la plateforme Tiendeo. C'est une hausse 2,5 fois plus rapide que celle de la moyenne des autres prix. Il n'y a pas que les chips, hein, les pizzas surgelées, on est à plus 8% sur 12 mois. Les boissons, le Coca-Cola, c'est quasiment 7% sur un an. Il n'y a que la bière, à boire avec modération évidemment, qui augmente moins vite que l'inflation globale.
Mais alors pourquoi ces produits, ils augmentent plus que la moyenne?
Et bah parce qu'il y a beaucoup de matières premières dans ces produits et que ces matières premières ont été poussé à la hausse, notamment par la guerre en Ukraine. Les chips, par exemple, eh bien, il y a beaucoup de huile de tournesol pour les fabriquer. 50% de la production vient d'Ukraine. Les prix ont flambé. Même chose pour les pizzas avec le blé. Et puis à cela s'ajoutent les coûts de production des emballages. Ce sont des produits qui sont très emballés. Il faut bien le dire. La surgélation, etc.
Bref, est-ce qu'il y a un petit conseil pour échapper à l'inflation?
Mais oui, j'ai un truc. Ah. Figurez-vous qu'un petit produit dont les prix sont restés très sages et qui est excellent pour la santé, meilleur que les chips, eh bien, c'est la petite barquette de tomates cerises.
Ah, c'est de saison, ça?
Bah, c'est pas forcément de saison.
Les reproches tout de suite.
Mais pour le porte-monnaie, c'est toujours de saison. Parfait. Parce que c'est pas cher. Et puis pour la santé, c'est meilleur.
Si on va pas se mentir, Manu, le menu ce soir pour nous, ce sera bière, coca, pizza, chips, évidemment. Et on espère un triplé d'Mbappé. 6h22, justement, c'est l'heure de la story Coupe du Monde.
La story de la Coupe du Monde.
Avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Un moment très fort hier après-midi, juste avant le match Angleterre-Iran. Le score est presque anecdotique. Victoire 6-2 des Anglais. Les Iraniens ont refusé de chanter leur hymne national afin de protester contre la répression du pouvoir en place dans leur pays depuis 3 mois.
Et avant de partir pour le Qatar, l'équipe nationale est allée embrasser la main du président iranien Ibrahim Raisi. Des joueurs jusque-là très complaisants envers le pouvoir en place.
Pour moi, ils ont fait quelque chose, mais pour moi, c'était bien tard. La grande majorité du pays espérait qu'ils perdent parce qu'ils ont tardé à soutenir les manifestants. Je suis contente qu'ils aient enfin réagi. Aujourd'hui, je suis fière d'eux.
Uchi était présente hier dans les travées du stade Khalifa de Doha. Pour elle, le foot n'était pas la priorité. Son objectif était d'alerter le monde sur ce qu'il se passe en Iran. Pour les joueurs, c'est une toute autre histoire. C'est ce qu'explique à l'issue de la rencontre Carlos Queiroz, il est entraîneur portugais de l'équipe iranienne.
L'environnement dans lequel se trouvent mes joueurs est loin d'être idéal pour se concentrer et préparer une Coupe du Monde. Bien sûr qu'ils sont affectés par les problèmes du pays. Ils n'ont qu'un rêve, représenter au mieux l'Iran, jouer pour leur pays, pour leurs compatriotes. Je suis fier d'eux, très fier. Et même à mettre 2 buts à l'Angleterre dans ces circonstances me rend très fier.
Un acte symbolique très fort en raison d'une médiatisation mondiale que représente la Coupe du Monde. Et cette décision pourrait avoir de lourdes conséquences. Clément Terme est spécialiste de l'Iran.
Ce geste collectif marque la première position commune de l'ensemble de l'équipe d'Iran. C'est un courage de ceux qui ont réussi au sein de la société iranienne, donc qui ont beaucoup à perdre du fait de leur statut de star, de leur richesse, de leur notoriété.
Alors les joueurs, eux, sont restés muets, mais le public n'est pas resté muet.
Les sifflets des supporters présents hier au stade, il y avait des Iraniens, mais pas que. En protestation justement contre le pouvoir iranien, quelques pancartes également ont réussi à passer les barrières de sécurité, des slogans sur lesquels on pouvait lire « Woman, life, freedom », »,« Femme, vie, liberté », une lutte nécessaire pour Alman, lui aussi présent dans le stade.
L'équipe a fait preuve d'unité. C'était un message vraiment très fort. Notre mobilisation n'est pas terminée. On reviendra pour les autres matchs. J'espère que ça motivera les manifestants en Iran. C'est loin d'être fini, mais c'est un très bon début.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Alman et Yushi sont des expatriés installés à l'étranger. Leur sécurité n'est pas en danger. Des militants plus que des supporters qui ont également chanté à la gloire de Mahsa Amini, jeune iranienne tuée en septembre dernier en garde à vue pour avoir levé le foulard.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب.
Le soutien des joueurs iraniens, leur courage, ils n'ont donc pas chanté leur hymne hier, oui, un acte courageux à l'heure où tiens, les capitaines des autres sélections, eux, refusent de porter le fameux brassard arc-en-ciel. On va continuer à en parler, en débattre ce matin dans Apolline Matin, puisque je vois Apolline de Malherbe qui vient de s'installer dans le studio. Coucou Apolline.
Salut cher Charles, bonjour à tous, je vous retrouve dans un instant, à tout de suite.
J'arrive tout de suite.